Sébastien. Donc bonjour à tous. Merci d'être là pour cette deuxième conférence de l'événement Train du climat à Climaterra qui va avoir lieu donc première journée aujourd'hui. Demain, le TER sera en gare avec également une conférence le matin sur la mobilité, l'après-midi sur les fake news et le soir la conférence inaugurale à Climaterra qui va présenter les résultats du deuxième rapport. Et la session se terminera le samedi avec une dernière conférence animée par Monsieur Legube sur le thème sécheresse. Conférence de l'après-midi, animée par Clémentine Préau, qui prendra la parole en suivant. L'avantage de notre situation, c'est qu'on va pouvoir privilégier les échanges. Donc, n'hésitez pas à participer, à être force de questions et de remarques. Certains d'entre vous ne se connaissent pas, donc on peut entrer dans le débat et aussi dans la finesse du débat du fait d'avoir d'avoir ce temps-là et d'être en comité qui le permette. Il y aura également ce soir la conférence des messagers du climat qui sera animée par Serge Planton, le vice-président de l'association Train du climat, et Daniel Compagnon de Sciences politiques, Bordeaux d'ailleurs. Vous pourrez aussi visiter une exposition qui sera adossée à la conférence au centre de conférence de Poitiers, donc Toumaï. J'espère avoir été clair. Sinon, vous avez sur le flyer l'ensemble du programme qui permettra d'être plus précis. N'hésitez pas à le prendre, il y en a à la sortie, il y en a en haut. Sans plus tarder, je laisse la parole à Clémentine et puis je vous souhaite une bonne conférence.
Aujourd'hui, on va parler de la qualité de l'eau. Je vous propose de parler comment la qualité de l'eau est impactée dans les différents éléments. On va d'abord regarder une petite vidéo sur le changement climatique pour faire un petit rappel. Et ensuite, on regardera les impacts possibles dans un espace naturel protégé, donc la réserve du Pinail. Ensuite, qui se trouve ici. Ensuite, on discutera de l'impact du changement climatique dans les milieux aquatiques. Je vous ai mis ici la Vienne. Et on parlera du cycle naturel du cycle naturel de l'eau et du changement climatique. Puis l'impact changement climatique sur l'eau potable, donc la qualité de l'eau potable. Je vous propose de commencer par une petite vidéo.
La Terre, notre belle planète bleue. Dans les films, elle est toujours sauvée par un super-héros. Dans la vraie vie, on l'attend encore. Mais le péril, lui, il existe bien, c'est le changement climatique. Explication. À l'origine du changement climatique, il y a les gaz à effet de serre. Ces gaz forment une couche qui se concentre dans le haut de l'atmosphère. Les gaz à effet de serre sont naturellement présents dans l'atmosphère depuis toujours. Ces gaz ont un rôle de régulateur pour notre planète. Ils gardent la chaleur du soleil et maintiennent la Terre à une température moyenne de 15 degrés. Sans eux, il ferait très froid, environ moins 18 degrés. Depuis la révolution industrielle, les activités humaines ont provoqué l'augmentation artificielle des gaz à effet de serre. Le filtre s'est transformé en une couche de plus en plus dense qui forme comme un manteau autour de la Terre et retient plus de chaleur. C'est ce qui provoque le réchauffement de la planète. D'après les scientifiques, la température moyenne de la Terre devrait augmenter de 1 à 5 degrés d'ici 2100. 5 degrés, ce n'est pas énorme, direz-vous. Détrompez-vous. Depuis la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 10 000 ans, et aujourd'hui, la Terre s'est justement réchauffée de 5 degrés. Le réchauffement de la planète modifie les équilibres naturels. Température, régime des vents et des pluies, biodiversité, acidité de l'océan. Dans l'hypothèse la plus pessimiste, les océans auront grimpé de 82 cm d'ici la fin du siècle. 700 millions de personnes devront quitter leur logement et trouver refuge ailleurs. L'augmentation de la température moyenne de la Terre accentue l'évaporation de l'eau. Le cycle de l'eau se modifie, avec pour conséquence plus de pluie au nord et de sécheresse au sud, et des événements climatiques extrêmes plus fréquents. Le réchauffement de la planète va aussi avoir des effets sur notre santé. Certains insectes, comme le moustique-tigre, apparaissent dans des régions où on ne les avait jamais vus. Des maladies tropicales se développent dans plusieurs pays du monde. C'est le cas du chikungunya ou de la dengue. Les déserts gagnent du terrain, comme au Kenya ou en Tanzanie. La biodiversité est menacée. 20 à 30% des espèces végétales et animales de la planète risquent de disparaître à court terme, soit environ 20 000 espèces par an. Et il n'y aura pas de super-héros pour nous sauver. Pour éviter ce mauvais scénario, chacun de nous peut et doit agir. Voici comment. La première chose à faire est de limiter les émissions de gaz à effet de serre. Pour cela, nous devons réduire la production et la consommation d'énergie fossile, comme le gaz, le pétrole ou le charbon. Dans le même temps, il faut continuer à développer les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, l'hydraulique, la géothermie, les biocarburants, mais aussi lutter contre la déforestation tropicale. Nous devons également encourager la rénovation des habitats et la construction de bâtiments bioclimatiques très économes en énergie, ou encore privilégier les transports en commun et les transports partagés. Nous pouvons aussi limiter tous les gaspillages de la vie quotidienne, eau, énergie, déchets ménagers et industriels. Enfin, nous devons nous adapter à la hausse des températures et à la modification du climat. Certaines cultures qui demandent trop d'eau pourront être remplacées par d'autres, mieux adaptées au climat. Chacun de nous a donc un rôle à jouer. Par nos actions individuelles et collectives, nous pouvons adapter nos sociétés et lutter contre le changement climatique. À nous d'être des super-héros. Retrouvez toutes les solutions sur le site de l'ADEME.
Du coup, je vous propose de continuer l'introduction en regardant un peu les effets possibles du changement climatique sur un espace naturel protégé qu'on a à côté de chez nous, donc à Vouneuil-sur-Vienne, juste au nord de Poitiers, je ne sais pas si vous connaissez, la réserve naturelle nationale du Pinail. Donc il s'agit d'une lande de 135 hectares, donc de landes humides, sèches et mésophiles en majorité. Mésophile, c'est entre humide et sèche, entre les deux. Et donc cette lande à Bruyères, elle est criblée de 6000 mares qui sont issues de l'extraction de la pierre meulière. Donc 6000 mares qui sont pour la moitié permanentes, c'est-à-dire qu'elles vont rester en eau toute l'année, parce qu'elles sont notamment en connexion avec la nappe, et la moitié des mares qui vont s'assécher durant l'été. Donc la réserve elle est située sur un plateau, donc elle est alimentée quasiment en totalité par les eaux de pluie. C'est pour ça qu'elle va être très dépendante du régime de précipitation. Et donc les espèces qui l'occupent vont aussi en être très dépendantes. Donc notre objectif à la réserve du Pinail, c'est de maintenir un bon état de notre écosystème, et notamment en maintenant des landes d'âge différents. Donc pour ça, on utilise quatre modes de gestion, qui sont le brûlage dirigé, le pâturage, la coupe de brandes avec export, et on laisse des zones en non-gestion, donc où on n'intervient pas. Donc comme je vous le disais, comme on est sur un plateau, on est dépendant du régime de précipitation, et c'est là que le changement climatique risque d'impacter notre écosystème. notamment à cause de la modification du régime des précipitations et l'augmentation de la température qui vont jouer sur la durée de sécheresse, donc le nombre de mares qui vont être asséchées et la durée de l'assèchement. Donc ça va jouer sur plusieurs espèces. Par exemple, vous avez la spirande d'été, qui est une orchidée qui est patrimoniale, qui est une espèce protégée, pour laquelle nous, on observe une tendance à la diminution. On avait 450 pieds d'orchidées en 2001, et aujourd'hui, tous les ans, on n'en retrouve que quelques pieds lorsqu'on fait des suivis. Donc, comme je vous disais, l'augmentation de la température et la diminution des précipitations, ça va aussi jouer sur d'autres espèces, par exemple les amphibiens qui se reproduisent dans les mares. Si on a les mares qui s'assèchent avant que les larves se soient métamorphosées, on risque d'avoir une mortalité des amphibiens. Donc, par exemple, nous, on observe sur un secteur qui correspond au secteur pâturé, on observe, si vous voyez la ligne jaune, une diminution de nos effectifs de tritons crêtés. Ça fait depuis 2011 qu'on n'a pas observé un seul triton crêté dans ce secteur. Après, l'enrichissement global du milieu, on est sur un milieu qui est pauvre en nutriments, qu'on appelle oligotrophe, et suite aux retombées atmosphériques, on risque d'avoir un enrichissement du milieu qui risque de faire perdre son caractère oligotrophe à notre milieu. Après, on a aussi un risque d'acidification de l'eau douce. On parle souvent de l'acidification des océans. Et l'eau douce est aussi concernée par l'absorption du CO2. Donc ça va jouer sur une autre espèce patrimoniale qui est l'écrevisse à pattes blanches. On a la seule population qui vit dans des mares d'écrevisses à pattes blanches en Europe et sur laquelle on a un fort enjeu de conservation. Et donc cette écrevisse, elle a besoin de pouvoir absorber du calcium pour régénérer sa carapace, son exosquelette. Donc l'acidification de l'eau risque de jouer sur la survie de cette espèce. Après, on risque aussi d'avoir... on sait que le changement climatique peut induire un bouleversement de la phénologie des espèces, donc un décalage dans les relations interspécifiques qui existent entre des espèces. Par exemple, on a un papillon à la réserve du Pinay. On a la dernière station de Azurée des Moulières du Poitou-Charente qui se trouve sur la réserve. Et ce papillon, il a besoin de se reproduire sur une espèce particulière de plante qui s'appelle la gentiane pneumonante. Donc si on a un décalage entre la floraison de la gentiane et l'émergence du papillon, on risque d'avoir un problème pour la reproduction de l'espèce. Voilà, donc tout un tas de tendances qu'on ressent lorsqu'on fait des suivis, lorsqu'on observe depuis longtemps les espèces. Après, on a aussi réalisé une étude sur les déplacements des aires favorables aux amphibiens en Nouvelle-Aquitaine. Et on a observé, si vous voyez la répartition actuelle, par exemple, de la rainette arboricole qui est ici, vous avez les répartitions futures qui, si on les projette avec des scénarios de changement climatique, donc là, vous avez deux types de scénarios. Le scénario le plus optimiste, selon le GIEC, et le plus pessimiste. Et donc, dans les deux cas, on voit que la répartition de l'espèce risque, ou en tout cas, les zones favorables à l'espèce risquent de remonter vers le nord. On a réalisé la même chose avec la rainette méridionale, qui est une espèce qui vit plus au sud et pour laquelle on observe plutôt une extension des zones favorables dans la région. Et après, le triton crêté dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, comme pour la rainette arboricole, on observe une diminution de ces aires favorables. Donc, comment est-ce que, dans un espace naturel, les gestionnaires peuvent prendre en compte le changement climatique ? Nous, en fait, on prend le parti de d'abord essayer de connaître, de relier les éléments qu'on observe au changement climatique pour pouvoir envisager la gestion. Donc, on a sélectionné 200 mares dans les 6000 mares du Pinay pour être des mares sentinelles. lesquels on va suivre et sur lesquels on va concentrer tous nos suivis avec des relevés physico-chimiques et des relevés de la faune, de la flore, de la fonge pour pouvoir les suivre et avoir des corrélations entre les différents éléments. Donc sur ces mares, on va regarder la thermie de l'eau. Donc on va sur certaines mares, on va poser des sondes donc au fond des à la surface des mares et au fond des mares et à différentes profondeurs pour surveiller la température de l'eau. On a aussi installé une station météo sur la réserve pour pouvoir corréler nos observations avec des températures. Et puis les 200 mares sentinelles, donc qui sont ici en noir, sur lesquelles on a réalisé tous ces suivis à l'aide de chercheurs de plusieurs universités en France qui sont spécialistes de beaucoup de domaines variés. Et après, on a des actions qui sont plus urgentes, comme par exemple sur l'écrevisse à pattes blanches, où on va essayer de faire, donc déjà de passer dans des actions de gestion, qui sont par exemple pour cette espèce de déplacer des écrevisses pour les emmener vers des mares qu'on considère comme étant plus favorables à long terme que celles dans lesquelles elles se trouvent actuellement. Voilà donc un exemple d'espace protégé qui réagit comme il peut face au changement climatique. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, tout à fait. Alors la réserve, elle est en accès libre toute l'année, donc tout le monde peut aller la visiter. Nous, on organise des visites l'été et après, pour les groupes scolaires, on travaille avec le Centre permanent d'initiative pour l'environnement du Seuil du Poitou qui fait beaucoup de visites sur la réserve et beaucoup ce travail-là. Et après, il y avait une autre partie dans votre question. Oui, après, on travaille avec les collectivités pour soutenir nos actions de gestion. Et les chercheurs, forcément. Donc là, en fait, ce protocole de Mare Sentinelle, il est en train de se mettre en place. Donc, on est en train de réaliser des partenariats. Donc.
Vous aviez pris en compte le changement climatique depuis...
En fait, c'est assez difficile de prendre en compte le changement climatique en termes de gestion, parce que on ressent qu'on a des populations, des espèces qu'on voit moins, mais c'est assez compliqué de relier directement au changement climatique et c'est compliqué d'envisager la gestion si on n'a pas des suivis à long terme qu'on peut corréler avec tous les facteurs possibles pour savoir vraiment comment agir et comment les facteurs influent entre eux. Donc pour l'instant, on est plus dans gagner de la connaissance pour ensuite envisager de la gestion. On essaye de se mettre en lien avec l'augmentation de la température et les précipitations et vraiment essayer de savoir après quels événements est-ce qu'on a des chutes de population, comment on met en lien les températures qu'on a observées dans l'année avec ce qu'on a observé. On va être un peu là-dessus.
Votre territoire, il est concentré ou vous avez des implications de culture à travers?
Non, c'est 135 hectares en une fois.
Quelle chance.
Sans curiosité sur l'ensemble des mares, grosso modo, j'en ai vu, il y a plein de types de mares différents, mais du coup, au niveau de la profondeur, c'est quoi? Ça représente. Il y a vraiment des gros écarts parfois? Ou
non, il n'y a pas des écarts énormes. Je connais pas les profondeurs de toutes les mares, mais non, c'est pas. Je sais pas, ça fait peut-être 20 mètres. Je sais pas. Désolée. Il y a des mares qui sont en connexion avec la nappe, mais après, c'est pas non plus très très profond. Oui, voilà. Mais après, ça fait partie aussi de la vie de la réserve d'avoir des mares qui s'assèchent. Donc, c'est normal aussi. Mais il y en a de plus en plus et c'est surtout de plus en plus longtemps.
Ouais.
je voulais enregistrer. Oui.
Vous parliez de l'acidité dans vos mares.
Oui.
Cette acidité provient d'où ?
De l'absorption du CO2 atmosphérique.
Pardon ?
De l'absorption du CO2 atmosphérique. C'est comme...
Mais vas-y.
Bah oui, non mais je... Oui, c'est ça.
D'accord. Non, parce qu'on s'aperçoit que dans des zones comme ça, vous devriez être plus ou moins protégé. Et nous, à la pêche, on s'aperçoit que même les lacs de montagne aujourd'hui sont pollués par l'acidité de l'eau.
Oui, mais après, tout,
alors qu'il n'y était
tous
pas,
les
il y a
espèces
quelques années,
sont concernées par l'augmentation du CO2. Donc,
Est-ce que vous envisagez des mesures d'adaptation au changement climatique dans la gestion ou c'est trop tôt encore ?
Pour l'instant, c'est trop tôt, oui. Pour l'instant, on travaille sur la mise en place des suivis et la mise en place des indicateurs. Et pour l'instant, non, on n'a pas encore mis en place d'actions de gestion qui sont vraiment relatives au changement climatique. À part la translocation d'individus sur les écrevisses à pattes blanches. Mais non, c'est tout.
Moi, j'avais une question par rapport au fait des espèces invasives. Si en fait, finalement, l'évolution de la réserve va pas peut-être devenir plus favorable à des espèces qui n'étaient pas du tout endémiques à la réserve, et notamment aux espèces invasives qu'on rencontre ailleurs.
Peut-être, oui. Pour l'instant, on est assez chanceux là-dessus, notamment sur les écrevisses invasives, on n'en a pas. Mais bon, on n'est pas à l'abri qu'elles arrivent. Non. Et ça, on a quelques espèces invasives, dans les mares, on a des perches soleil, par exemple, mais on n'a pas vraiment moyen de lutter contre, à part vider toutes les mares, mais c'est un peu compliqué.
On va enchaîner.
Bon, bah, si on a terminé avec les questions, on va pouvoir enchaîner sur les milieux aquatiques avec Monsieur Lacroix, qui va nous parler des milieux aquatiques et les changements climatiques dans les Deux-Sèvres. On peut commencer par lancer la vidéo.
Moi, si vous voulez, je peux intervenir. Voilà. Alors, vous allez voir une vidéo. C'est très significatif du département des Deux-Sèvres.
Au nord de la région Nouvelle-Aquitaine, dans l'ex-région Poitou-Charentes. Considéré comme le château d'eau du Poitou, il est la source de nombreuses rivières, comme la Sèvre Niortaise alimentant le Marais Poitevin. Cette situation si particulière en fait un milieu très riche en biodiversité, mais également un milieu fragile, impacté par de nombreuses pressions. Ce milieu est donc directement touché par le réchauffement climatique. La richesse de ces milieux est multiple, allant des invertébrés, comme les trichoptères, éphémères ou libellules pour les plus connus, aux poissons migrateurs comme les aloses ou encore l'anguille ici aux portes de Niort. Mais aussi truites ou brochets, espèces les plus étudiées car dites repères de la qualité des milieux aquatiques. Ces milieux sont suivis de près afin d'évaluer la qualité des masses d'eau des cours d'eau dans l'objectif d'atteindre le bon état écologique. En mesurant, par exemple, la répartition et classe de taille de chaque espèce de poisson, la Fédération des Deux-Sèvres pour la pêche et la protection du milieu aquatique étudie la qualité des cours d'eau. Les impacts sont également suivis de très près, et notamment durant l'étiage, période la plus sensible. Sur un milieu surexploité, nous passons chaque saison de plus en plus près de coupures estivales d'eau potable avec des étiages toujours plus importants. des assecs plus longs et plus nombreux, la difficulté de retrouver des températures d'eau favorables à la vie de certaines espèces sont de plus en plus fréquents. Le nombre de cours d'eau à sec augmente chaque année. Si nous n'adaptons pas nos pratiques à la ressource, si nous ne prêtons pas attention aux impacts sur les milieux aquatiques, la biodiversité, invertébrés, migrateurs ou espèces repères sont menacés. Quand vous prenez une carte de pêche, vous adhérez à une association de protection des milieux aquatiques et vous financez par la même occasion des travaux visant la restauration des milieux aquatiques. Réparer des milieux dégradés reste une solution efficace dans l'optique de retrouver un bon état de nos cours d'eau. Création de frayères, diversification des habitats permettent à des espèces comme la truite fario de mieux résister aux impacts du changement climatique. Si les impacts comme le prélèvement pour l'irrigation, le recalibrage de cours d'eau, l'assèchement de zones humides ou encore l'arrachage des haies restent inchangés et que le réchauffement annoncé se produit, voir des poissons sauvages se reproduire dans nos cours d'eau, comme ici la truite fario sur des frayères au cœur des Deux-Sèvres, ne sera plus possible. Il est donc essentiel de protéger cette biodiversité.
Bien, donc vous avez vu sous une bonne image et sous une moins bonne le département des Deux-Sèvres et son milieu aquatique. On va se présenter, donc moi Pierre Lacroix, président de la Fédération de pêche des Deux-Sèvres.
Fabien Priou, donc je suis agent de développement à la Fédération de pêche des Deux-Sèvres. Donc je fais beaucoup d'animations sur les techniques de pêche et puis j'apporte aussi tout mon soutien au niveau technique à mon collègue qui est chargé de mission à la Fédération de pêche des Deux-Sèvres avec le suivi des assecs l'été, les pêches électriques également. Donc on fait beaucoup de collecte de données. Voilà.
Je vais vous présenter la fédération qui est à peu près... Elles sont identiques hein, sur toutes les fédérations départementales. Donc les missions principales, c'est développer le loisir pêche, dont Fabien contribue. Participer activement à la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole. Vous avez vu qu'on a du travail. Et organiser la surveillance des gestions des droits de pêche. L'organisation de la fédération, il y a un conseil d'administration de 16 personnes. Ensuite, nous avons un bureau restreint de 4 personnes, une directrice avec 4 pôles, un pôle administratif de 2 personnes, un pôle animation de 2 personnes, un pôle technique d'une personne et un pôle garderie de 2 personnes. Ce qui fait que nous avons 8 salariés. 8 salariés, le budget annuel de la fédération est à peu près de 800 000 euros et tout ça géré par une loi 1901 qui, à mon avis, a dépassé ce bon entendement. Hein. Parce que le président, des fois, il peut s'arracher les cheveux. Hein. Nous avons 4 commissions, une commission des finances, une commission promotion, communication et jeunesse, et une commission ressources humaines et une commission de bassins. Alors les bassins, on a 7 bassins qui sont managés par un ou deux élus du comité directeur. Donc il y a une décentralisation hein, de façon à ce qu'on soit sur le terrain et que tout le monde s'y sente bien. Alors ensuite, nous avons... quand on se dépêche, qu'on va toujours... Hein. Donc, le pôle de l'épaule de la fédération, le pôle administratif, il y a une directrice, une secrétaire et une secrétaire comptable. Le pôle technique, c'est un responsable technique qui est un ingénieur. Nous avons un pôle animation qui est un chargé de développement et un agent de développement. La pôle garderie dont... Fabien fait partie. La pôle garderie, un technicien qualifié et un agent de développement. Et nous avons donc les sept bassins versants. À l'échelon national, nous avons une fédération nationale, nous avons 12 associations régionales et 94 fédérations départementales. Il y a 3700 associations à l'échelon national. Dans les Deux-Sèvres, on a 47 associations locales. Nous avons 411 km de sources de cours d'eau de première catégorie et 1130 km de cours d'eau de deuxième catégorie et 500 hectares d'étang. Le nombre de pêcheurs en Deux-Sèvres est de 18 320. Donc voilà brossé rapidement la Fédération des Deux-Sèvres. Maintenant, je vais vous parler de plus en détail de nos attributions. Sur la situation des milieux aquatiques, comme vous avez pu le voir tout à l'heure, le 79 est considéré comme le château d'eau de l'ex-Poitou-Charentes. Beaucoup de sources prennent beaucoup de rivières prennent ou chevelues prennent leurs ressources dans les Deux-Sèvres. Si on part de la face ouest, nous avons la Boutonne qui se jette dans la Charente. Nous avons la Sèvre Niortaise. En plus haut, nous avons donc la Sèvre Nantaise. Nous avons le Touet, nous avons le Touaret, nous avons la Vendée. Nous avons du côté 86 la Dive du Nord, la Dive du Sud. Enfin, je vous dis, il y a énormément de ruisseaux. Alors, pour nous, c'est un avantage parce que les têtes de rivière, c'est de première catégorie, là où on trouve des salmonidés, des truites. Mais l'inconvénient, c'est qu'on est grugé par une gestion de l'eau en Deux-Sèvres, comme ailleurs d'ailleurs, qui fait que pas mal de chevelus sont à sec. Sur 747 km de chevelus et de ruisseaux qu'on observe, tous les ans, on a 350 km d'assec. Donc vous voyez, en gros, c'est 33%. 33% à 40%. Donc ça, c'est des assecs purs et durs. Hein. Il n'y a plus rien. Plus une vie, plus un poisson, plus rien du tout. Alors, un milieu riche mais sensible. Alors, deux catégories de rivières, on vous l'a dit tout à l'heure. Première catégorie, c'est là où vivent les salmonidés. Et les deuxième catégorie, où le poisson blanc et le brochet. Les deux repères, première catégorie truite, deuxième catégorie le brochet. Le poisson emblématique, c'est l'anguille. L'anguille, vous savez qu'elle est très protégée aujourd'hui pour des raisons simples. C'est qu'elle subit la pollution de plein fouet, étant donné que c'est un poisson de fond. Donc, elle subit la pollution de plein fouet. Et elle est exagérément pêchée dans les estuaires par le biais des civelles. Hein, les civelles qui sont les alevins et qui remontent par l'eau saumâtre et qui rejoint après les estuaires, l'eau saumâtre, et qui remontent dans nos ruisseaux. Donc là, on a un énorme problème avec l'anguille. L'eau et sa gestion, c'est un vaste débat. On pourrait en parler, mais là, je peux vous tenir jusqu'à demain matin. Bien commun, ô combien important, ça, il faut qu'on le sache. Hein. Je croyais qu'on aura affaire à des gamins, mais il n'y en a pas. Il faut savoir qu'on a 60 à 60% du corps humain qui est constitué d'eau. Et d'eau, a priori, il faudrait qu'elle soit à peu près potable quand même. Hein. Nous partons du principe que l'on peut se dissocier, on ne peut absolument pas dissocier quantité et qualité. À partir du moment où vous n'avez pas la quantité, vous n'avez pas la qualité, parce que vous n'avez pas la dissolution des produits indésirables dans le volume que l'on pourrait souhaiter. Et le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quand vous avez des stations d'épuration qui se jettent dans le milieu, elles sont étudiées pour qu'elles puissent se déverser à condition qu'il y ait un certain niveau d'eau et un certain débit, pas forcément le niveau, mais un débit. Et aujourd'hui, on a des ruisseaux, tels que je prendrai pour exemple le Mignon, à Mosée sur le Mignon. Nous avons le Mignon qui est coupé en amont de la station d'épuration et le Mignon qui coule après la station d'épuration, parce que c'est la station d'épuration qui assure le débit du Mignon. Donc quand on parle d'un mélange d'eau polluée avec d'eau potable, on est dans le cas concret, là, où on a tout et son contraire. Au début de l'irrigation, alors on va attaquer le problème des usages de l'eau, hein, parce que l'irrigation, on va en parler un petit peu quand même. Au début de l'irrigation, en 1990, on avait dit aux cultivateurs, pas de problème, l'eau est un bien inépuisable. Hein, quand on la prend, on s'en sert, mais elle s'évapore, elle retombe dans les nappes. Bon, il y a un circuit fermé, pas de problème, l'eau est inépuisable. Manque de peau, on s'est rendu compte que l'eau qu'on allait chercher dans les nappes qui avaient mis des millénaires pour se remplir, et on va chercher de l'eau maintenant à 150, 200, 250 mètres dans les nappes hein, pour irriguer, avec de l'eau qui fait 13 degrés, quand il fait 30 dehors, on se demande comment les plantes n'arrivent pas arrivent à supporter le contraste, quoi. Donc, on s'est rendu compte que quand on a pompé, à un moment donné, on s'est dit, merde, ça ne correspond pas du tout à ça. On a passé la demande nettement supérieure à la ressource. Et c'est ce qu'on vous a fait voir tout à l'heure. À partir du moment où on pompe de trop, il n'y a plus de débit aux sources. Et puis les rivières s'assèchent. Et on vous avez vu ce que ça donne. Pour un ordre d'idée, la consommation des ménages a doublé à peu près depuis 30 ans. Il y en a d'autres qui nous en parleront sûrement. Mais les agriculteurs, eux, depuis 1990, ont pris énormément d'eau dans les réserves. Quelques chiffres. Une consommation moyenne, je pense que c'est à peu près de 85 à 100 litres à l'année. N'importe quoi. Mètre cube à l'année. Et une consommation moyenne d'un hectare irrigué, c'est 1500 mètres cubes. 1500 mètres cubes. C'est le minimum. Hein. Donc, si on peut faire un chiffre rapide. Si vous avez 25 000 hectares irrigués, par exemple, dans les Deux-Sèvres, vous multipliez par 1500, vous arrivez à 37, voire 40 millions de mètres cubes qu'on va chercher dans le milieu. Chercher l'erreur. La qualité de l'eau. Il faut qu'on ait un sérieux dans les traitements des eaux usées. Je vous en ai parlé tout à l'heure, aussi bien en individuel qu'en collectif. Il n'y a rien de pire qu'un collectif qui collecte les eaux usées et qui les traite mal. Parce qu'autant en individuel, la nature, elle va arriver à faire à peu près son boulot. Mais quand vous faites une collecte et qu'elle n'est pas traitée, là, c'est la catastrophe. Nous, on a un exemple, je le prends toujours. Je ne sais pas si je dois le dire, mais je vais le dire, puisque mon avenir est derrière moi. On a une station d'épuration à Saint-Mexant-l'École, 6 ou 7 000 habitants, qui se jette dans la Sèvre-Niortaise. Quand on n'a pas de débit dans la Sèvre-Niortaise, c'est un fleuve qui coule, mais bon, il n'y a pas beaucoup de débit. Par contre, 5 km en dessous, on pompe l'eau à la Corbelière pour faire de l'eau potable. Je dis chercher l'erreur. Parce qu'à un moment donné, si bien qu'on a fait des analyses quand même, c'est l'année dernière ou cette année, je crois, où on met la Sèvre-Niortaise et ses 103 pesticides. On a trouvé 103 pesticides dans la Sèvre-Niortaise, mais comme je disais tout à l'heure, on ne trouve dans l'eau que ce que l'on cherche. Donc on a voulu chercher ces 103 pesticides, on les a trouvés, mais ceux qui restent à côté, on n'en sait rien. Et quand on fait le mélange de tous ces pesticides, je vais vous dire que les chimistes ne sont pas toujours très satisfait des mélanges et des conclusions qui peuvent se faire entre molécules, quoi. Donc, je pense qu'il y a des choses à prendre en considération. Moi, mon avenir est fait, mais pour mes petits-enfants, c'est pas forcément fait. Nous avons tous un rôle extrêmement important à jouer et nous comptons beaucoup sur la jeunesse, que je comptais voir aujourd'hui, c'est bien dommage, pour faire passer le message. On va parler de la climatologie. La climatologie, nous avons une très grosse inquiétude face à ce phénomène qui prend une ampleur non dissimulée de la part de nos scientifiques et chercheurs. Tout le monde s'interroge et se pose la question, comment on va gérer ce qui risque de se passer? Le professeur, comment il s'appelait, Allègre, je crois, qui voulait manger les mammouths, là, on n'entend plus parler, je crois qu'il doit être malade, mais quand il nous disait, il est très malade, parce que je pense qu'il a bu de l'eau, il ne se rendait pas compte de la situation. Nous pouvons déjà assurer que cette situation contestée depuis plusieurs années devient un phénomène aggravant quant à la gestion de l'eau. Alors je me bats toujours contre les médias quand ils nous disent la climatologie et la préfecture quand elle prend ses arrêtés, parce qu'elle dit la sécheresse, la climatologie fait que nos rivières ont plus d'eau. Je dis arrêtez vos conneries. Il y a d'abord la gestion de l'eau, où il y a un phénomène aggravant qui est la climatologie. Je veux bien le concevoir. Mais d'abord, on parle de gestion de l'eau. Après, on verra. Mais la climatologie est un phénomène aggravant, j'en suis conscient. Mais on ne se cache pas derrière son petit doigt qu'avec ce problème. Nous observons ensuite au réchauffement de l'eau des mutations donc au sein même de l'habitat du poisson. Oui, vous l'avez vu tout à l'heure, on aménage des frayères à truites parce qu'on se dit qu'elles ne peuvent plus aller là où elles allaient autrefois, c'est-à-dire les têtes de bassin, parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc on se replie un peu vers le bas du bassin et on aménage des frayères de façon on la force, si vous voulez, à retrouver un lieu qu'elle ne peut pas retrouver naturellement, quoi. Donc, vous avez posé une question tout à l'heure sur la climatologie. Est-ce que vous vous y préparez? Nous, on essaie, en fonction de ça, de s'y préparer. On a un autre phénomène, si vous voulez, c'est la mutation des poissons. Vous avez le brochet, par exemple, qui est en deuxième catégorie. Mais aujourd'hui, avec le réchauffement de l'eau et la qualité de l'eau, il a tendance à remonter sur les premières catégories qui, normalement, est une eau froide et qui ne doit pas dépasser 17 degrés. Mais bon, à 17 degrés, le brochet s'y sent encore bien. Et il trouve une eau donc, qui est plus oxygénée. Et on a une mutation du poisson blanc qui arrive à frayer dans ces eaux où il n'allait pas autrefois. Donc le brochet, lui, pas plus bête qu'autre chose, il trouve un milieu favorable avec une alimentation qui n'y était pas autrefois. Bah, qu'est-ce qu'il fait? Il monte de 10 km. Et je vais vous raconter une anecdote. On a un petit ruisseau qui s'appelle le Bougon. Il s'est pris un brochet de 1,05 m dedans. Le brochet était dans le sens du courant, mais il ne pouvait pas faire demi-tour. Hein. Mais voilà, quoi. On arrive à des mutations comme ça. Et c'est complètement indépendant de notre volonté, mais il faut qu'on y pallie. Alors, on s'aperçoit que dans les chiffres que je vais donner tout à l'heure, là, on a de plus en plus de consommation, on a besoin de consommation d'eau, mais on a une raréfication aussi des volumes à disposition, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir franchement qu'on réfléchisse à tout ça. Alors, on a quand même quelques informations positives à vous faire passer. Il y a une certaine prise de conscience et certaines dispositions, voire que certaines dispositions voient le jour. Elles nous permettent de constater une certaine amélioration. On pourrait citer, par exemple, la mise en place des programmes ressources. Oui, parce que les syndicats d'eau, aujourd'hui, sont astreints à des règles aussi. C'est compliqué de trouver l'eau pour la rendre potable. Quoi, hein. Potabilisée, voilà. Donc on met des programmes en place, qu'on appelle des programmes ressources. Il faut qu'on retrouve des fonds de vallée enherbés. On met des bandes enherbées de 10 mètres le long des rivières de façon à ce qu'on fasse tampon, que l'eau polluée n'aille pas directement dans la rivière. Mais 9 fois sur 10, dans ces zones humides, on avait drainé. On avait drainé et le drain se jette dans la rivière. Alors on a fait une bande enherbée, mais on a oublié d'enlever les drains. Ce qui veut dire que tout l'effet qu'on veut se donner bonne figure est un effet néfaste parce que le drain, il rejette encore dans la rivière. Quoi. Donc, mais tout est... Bon, voilà. Le retour des herbes, oui, des zones humides. Alors, les zones humides, il faut qu'on y fasse très attention parce qu'aussi, on est contraint avec la continuité écologique de raser les barrages, de faire pour que les poissons continuent, l'évacuation des limons et ainsi de suite. Et on s'aperçoit qu'en vidant ou en abaissant tellement les niveaux des rivières, on assèche les zones humides, on vide les puits. Enfin, bon, il y a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, il faut qu'on y fasse très attention. Et ensuite, on a les changements de mode de culture. Alors nous, on dit qu'il faut absolument qu'on arrive à un changement de mode de culture. Quand on fait du maïs sur des terres de groix comme à la Motte-Saterret ou à Salles, qui est mon territoire, il faut absolument que vous mettiez 1500 à 2000 mètres cubes à l'hectare pour que le maïs y pousse. Si vous n'y mettez pas ça, on dit que la terre est le support de la plante aujourd'hui. Le support de la plante, ça veut dire que vous mettez une graine de maïs, elle va naître. La terre va le faire naître. Mais si vous n'y mettez pas ce qu'il faut au pied, eh ben vous aurez du maïs qui sera haut comme ça et puis vous n'aurez rien, quoi, hein. Donc, il faut absolument qu'on revienne sur des cultures raisonnables et raisonnées avec des cultures adaptées au sol. Il faut faire du maïs, pourquoi pas, mais dans des terres rouges profondes où là, il n'aura pas besoin d'eau et il trouvera son bonheur. Et il aura les mêmes rendements que sur une terre de groix irriguée. Mais arrêtons de faire du maïs irrigué. Ou alors, c'est ce que je leur disais un jour, enlevons la terre cultivable, mettons une bâche, on remet la terre et on fait du riz. Ce sera beaucoup plus rentable. En conclusion, alors je citerai le professeur émérite de l'Université de Poitiers, hein, professeur Legube, qui conclut son intervention alors qu'il avait assisté à l'Assemblée générale de la Fédération. Alors je vais le lire avec beaucoup d'attention parce que ce qu'il avait dit, il faut le savoir. Alors j'ouvre les guillemets. Que faire à l'échelon local, régional, des bassins hydrographiques, principalement de l'adaptation? Prendre conscience de l'enjeu. Décider et agir vite en concertation avec les territoires et en appuyant sur une gouvernance optimisée et dynamique. Développer les connaissances, notamment locales, et les diffuser aménager le territoire en intégrant la nouvelle donne climatique, engager les acteurs économiques et les citoyens vers un autre modèle de développement et de consommation plus économe en eau, sécuriser et augmenter les ressources en eau, tout en se prémunissant contre les risques naturels et sanitaires. Voilà ce qu'il nous avait dit. L'autre jour, j'étais avec notre préfète. Vous savez qu'il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de l'eau, quand même. Il y a beaucoup d'études, il y a beaucoup. Et elle me disait, oui, mais c'est pas facile. C'est pas. Faudrait qu'on fasse une étude. J'ai dit, stop, madame la préfète. Aujourd'hui, si on veut se mettre tous les uns à côté des autres et donner, faire superposer les études qui sont faites, je lui ai dit, tout est su, tout est connu, mais rien n'est fait. Je vous remercie de votre attention. Alors maintenant, on est à votre disposition avec Fabien. Il va vous parler un petit peu des pêches électriques, lui, avant de commencer les questions.
Donc,
pêche d'inventaire.
Pêche électrique, donc vous avez vu une petite vidéo là-dessus. Je ne sais pas si vous savez comment ça fonctionne. On crée un champ électrique dans l'eau, ce qui nous permet de... Donc le champ électrique crée une nage forcée du poisson vers l'électrode. Et quand il arrive proche de l'électrode, d'une tétanie, on l'attrape rapidement à l'épuisette. Et puis, il n'y a pas de danger pour le poisson. Ça crée un petit stress, effectivement. Mais voilà, donc ça nous permet d'étudier beaucoup les espèces. Et effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, Président, on s'aperçoit qu'il y a quand même une migration des espèces due au réchauffement de l'eau. Hein, donc, le manque de débit à certaines périodes. Notamment l'été, donc ça permet à l'eau se réchauffe bien plus vite, perd en oxygène, et donc des poissons de seconde catégorie où l'eau est plus lente, plus chaude et moins oxygénée, bah ces poissons-là ont tendance à migrer vers l'amont et donc à coloniser ces zones-là. Donc voilà pour ce que nous permettent de recenser ces pêches électriques. Ensuite, au niveau du suivi des ASEC, donc ça, c'est fait du 15 juin jusqu'à début octobre. Et là, on s'aperçoit aussi que ces baisses de débit, ce réchauffement de l'eau entraînent le développement de certaines espèces qui ont été, que ce soit des espèces de poissons, mais aussi des espèces de plantes, voilà, qui ont été déversées dans le milieu, qui sont des espèces exotiques. Et ces espèces-là se développent de plus en plus facilement dans ces milieux. Et ça arrive même parfois à recouvrir au niveau des plantes, à envahir complètement la rivière. Donc pour nous pêcheurs, ça devient compliqué de pêcher.
La jusille, par exemple.
Il y a aussi l'élodée. Donc voilà, toutes ces plantes-là ralentissent encore l'écoulement de l'eau et le réchauffement. Et donc on arrive à des phénomènes d'eutrophisation qui sont... quasiment total sur certaines parties de cours d'eau.
Voilà. On vous écoute. On passe à la deuxième, parce que la première est toujours compliquée. Hein.
Oui, mais j'avais une question. À quel moment vous avez fait le lien, du coup, avec le changement climatique ? Parce que je suppose que vous avez donc observé dans vos pratiques, c'était pas forcément il y a peut-être une dizaine d'années ou 15 ans, le climat aussi présent qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur avec lequel vous avez fait le lien, ou c'était déjà avant même que ça soit aussi médiatique qu'aujourd'hui ?
C'est pas si simple que ça. Si vous voulez, depuis 30 ans, depuis 1990, on a une gestion de l'eau qui est complètement irraisonnée. Ça, c'est sûr, avec tout ce qui s'est mis en place, et puis la consommation humaine, faut pas négliger non plus, et puis après, avec le principe de l'irrigation. Donc, depuis 30 ans, on a une désorganisation complète de la gestion de l'eau. Et l'aberration du système, je dirais quand même, je reviendrai à votre question, c'est qu'on va chercher de l'eau qui est quasiment indemne de tout produit dans les nappes pour arroser du maïs, et on prend de l'eau de surface pour se servir de l'alimentation qui a subi toutes les conneries du monde, quoi. Donc je me dis, quelque part, j'attaque un peu sur ce qui sera dit plus tard. Mais moi, c'est en tant que citoyen moyen. Hein. Et ça, je trouve ça d'une aberration totale. Alors pour la climatologie, je dirais que c'est depuis 10 ans. Hein.
2003.
Depuis que les vieux ont mouru, là. Non, rien, une connerie. 2003, il y a beaucoup de vieux qui sont morts.
Ah oui, oui.
Voilà. Et les poissons à ce moment-là ont commencé à muter aussi. Et c'est vrai que 2003, c'est le début des constatations qu'on a pu faire par nos pêches électriques. Hein, et puis voilà. Mais ça va en s'aggravant. Quoi. Ça, c'est clair que ça va en s'aggravant. C'est continuel, hein, tout, continuel. Et puis depuis 2 ans, là. C'est vraiment une catastrophe, quoi, quand vous avez vu les images que vous avez vues. Parce qu'on me dit, après, parce que, bon, vous savez, bon, j'ai une grande gueule, c'est vrai que je gueule, ça, c'est sûr. Mais après, on me dit, t'es content, t'as eu de l'eau, il y a de l'eau dans les rivières. Mais, attendez, le cycle du poisson, c'est 1, il naît, 3 ans, il pond, et 6 ans, la deuxième génération arrive, quoi. Hein. Donc, quand vous avez des insectes tous les ans, vous voyez le système un peu ? C'est une catastrophe écologique. Et ça, personne ne veut le comprendre. Alors, vous voyez, je m'agacer, là. Hein ? Mais comprenez bien que c'est inconcevable, quoi, inconcevable.
Et que le lien donc, a été fait dès 2003 oui. avec le climat.
2003, ça a été le début.
La problématique a été...
Oui. D'abord, on a eu une croissance des mouvements de poissons, une augmentation des plantes invasives, des écrevisses de Louisiane, américaines, j'en pensais des meilleures. Donc, tout est arrivé à ce moment-là. Quoi. Puis maintenant, à l'inverse de la chasse, où on peut, sur un territoire, détruire un gibier ou une surproduction de renards, ou parce que, bon, on les voit, quoi. Hein. La pêche, à part quand vous avez une catastrophe écologique, vous n'avez plus un brin d'eau dans une rivière, vous ne pouvez pas maîtriser ce qu'il y a dans la rivière. Là, c'est un problème, ça. C'est un problème. Une question.
Vous avez parlé de migration des poissons, oui. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, finalement. Ils remontent ou ils descendent ?
Ils remontent. Ils remontent à l'oxygène.
Mais vers les sources.
Bon. Vers les sources.
Oui, parce que là, donc, la température est moins
oui. moins si élevée.
Même si le débit est moins important.
Oui.
Et la température
parce qu'on est plus près de la source.
D'accord, ok.
On est plus près de la source.
Okay. Merci.
Les pollutions, il faut bien que vous compreniez. Sur les terres de groix. Culture intensive, beaucoup d'irrigation, terre de calcaire. Donc on a 2 mains de terre, après c'est du calcaire, après vous avez les nappes. Donc on met du maïs, on irrigue, on met des phytosanitaires, des fongicides, des pesticides, et j'y ajoute les merdicides. Hein. Et tout ça, au dessivage des terres, ça va dans la nappe. La nappe, ça sort à la source, ça sort à la rivière, et de la rivière, ça va à la mer. Vous avez aujourd'hui dans les estuaires de notre Grand Ouest, là, conchéiculteurs, ostréiculteurs, c'est une catastrophe. Et c'est il y a 2 ans, j'ai vu ces gens-là, moi, dans une réunion de SAGE, schéma d'aménagement et gestion de l'eau, du SAGE, venir à la réunion se plaindre avec le mouchoir à la main, 80% de perte de leurs produits dus. Ça n'a jamais été prouvé parce qu'on n'a pas voulu le prouver. Tout est su, tout est connu, mais on ne dit pas tout. Et là, c'était le drogage des limaces sur les colzas au printemps et l'essivage des terres, direction la rivière l'estuaire, loche, moule, même cause, même effet. Une question.
Oui, vous avez... Ça marche ? Oui. Vous avez parlé des études. Je partage assez avec vous des études. On en a depuis des années et puis on ne voit pas très bien sur quoi ça débouche. Et est-ce que vous avez envisagé d'utiliser vous avez dit 18 500 pêcheurs, hein, je crois,
oui.
ou adhérents. Est-ce que vous avez envisagé d'utiliser ces 18 500 personnes pour faire pression ? Parce que enfin, moi, sur l'eau, je ne vois pas d'autre solution que de mobiliser les citoyens. Tout a été essayé avant.
Je vous réponds du tac au tac. Tout le monde sait qu'il y avait une réunion ce soir aujourd'hui sur l'eau.
On n'est pas beaucoup.
D'accord ? D'accord ? Problème du citoyen aujourd'hui, il attend de tout, de tout le monde, mais surtout qu'il n'en fasse pas trop. Quoi, hein.
Ouais, et puis tant que... Alors, quand, la stratégie... quand on ouvre le robinet, on a de l'eau qui coule au bout et qu'on peut la boire et qu'on peut se laver avec.
Tout ira bien.
Je pense que les gens ne se poseront pas. Vous savez, l'écologie, ça vient un petit peu après le reste, quoi. C'est-à-dire que quand tout le reste va bien, après on peut parler d'écologie, mais avant ça,
vous,
il y a autre chose.
Vous avez pas, enfin, vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un gros problème de bassine aujourd'hui. Le problème de bassine des Deux-Sèvres. Les Deux-Sèvres sont à l'avant-garde de l'annonce de... Moi.
On va essayer d'avancer un petit peu.
C'est là où je voulais en venir.
Comment? On va essayer d'avancer un petit peu sur...
Ah, moi, j'ai ma demi-heure, elle n'est pas passée. Hein. Ah non, mais il faut y aller. Hein. On a fait des manifestations le 11 novembre l'année dernière où on avait plus de 2000 personnes. Hein. On en a fait deux autres, même processus. J'aime vous dire que ça fait une pression sur nos décideurs, quand même. Hein. Ça, c'est clair. Hein. La préfète, aujourd'hui, elle me dit « Monsieur le Président, auriez-vous l'amabilité de bien vouloir quoi, hein. ?» Et puis, je lui dis pas « oui hein, », ça, c'est clair. Hein. Donc, mais c'est vrai, vous avez raison. Vous avez raison. Mais comment faire? Comment faire? Une question, madame. Oui.
Et en plus, détruire la qualité de l'eau qui arrive dans les... Donc, il y a quand même... Vous dites que les gens s'en fichent, je ne crois pas. Je crois qu'il faut continuer ce mouvement. Mais je pense quand même que ça a quand même un petit peu...
Si vous voulez, le problème de ces bassines... Parce qu'il y a un problème de fond, on en parlait tout à l'heure. Il faut que nos politiques aussi considèrent que le problème de fond, c'est il faut que nos cultivateurs vivent aussi. Hein. Il aurait fallu à un moment donné payer la valeur du produit pour qu'on n'arrive pas à cet état de surproduction pour survivre. Quoi, hein. Et aujourd'hui, on est toujours dans ce cas de figure. Si on accepte les bassines d'aujourd'hui, on pérennise une culture qu'on veut voir disparaître. Hein, si on n'a pas parlé des maladies, du cancer, je vous ai épargné ça, mais enfin bon, on sait très bien que c'est pas anodin non plus. Hein. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je vous attends jusqu'à demain matin, je vous tiens, hein, ça pose aucun problème. Bon, ben, on va arrêter là.
Oui, mais parce qu'il y aura d'autres endroits pour pouvoir en discuter aussi.
Ah oui, mais je serai pas là. Hein.
Du coup, on va continuer en parlant du cycle de l'eau et de l'impact du changement climatique dessus. On va passer une petite vidéo pour commencer.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est pas compliqué si c'est bien expliqué. Aujourd'hui, nous allons traiter du cycle naturel de l'eau, qui n'a rien à voir, Sacha, merci de me le rappeler, avec l'épisode précédent qui traitait du cycle de l'eau domestique. Non, aujourd'hui, on va parler de la nature, des oiseaux, des poissons et même des dinosaures. Parce que l'eau qui est présente sur la surface de notre planète est la même depuis sa formation. Il y a 4,5 milliards d'années.
Ah, tu es en train de me dire qu'on boit la même eau que les dinosaures?
Techniquement, si. Oui, mais pas en même temps. Simplement, c'est la même qui circule en permanence. C'est le cycle naturel de l'eau. Pourquoi? À cause du soleil. L'eau s'évapore.
Elle monte dans l'atmosphère. En altitude, elle va rencontrer le froid. Ce froid va faire que cette eau va se condenser, former des nuages qui vont provoquer des précipitations.
Des précipitations. Qui vont tomber dans les fleuves, les rivières, les cours d'eau, les océans. Voilà, c'est bon, j'ai compris. Je suis pas né de la dernière précipitation.
La pluie. Voilà. Alors, justement, Sacha, tu vas me poser la question. Cette eau de pluie, une fois qu'elle est tombée, qu'est-ce qu'elle devient ?
C'est vrai, ça, je te pose la question.
Eh bien, c'est très simple, ça tombe bien. En plus, j'ai la réponse. Ah. Alors, j'ai fait un petit calcul. Eh bien, cette eau de pluie, 64% vont servir à nourrir les végétaux. 25% vont ruisseler pour rejoindre les cours d'eau, les mers, les océans. Et le reste, j'ai fait un rapide calcul, hein, donc la sine carré d'hypoténuse, sachant que Paul n'a pris qu'un seul bain, 11% va servir à alimenter les nappes souterraines et à s'infiltrer dans la terre. Voilà, le cycle de l'eau peut recommencer.
Ah, ok, je coupe.
Alors, non ! Oui, non, mais fallait pas couper, Sacha, parce que je voulais montrer d'autres choses à nos internautes.
T'as fait un brownie ?
J'ai fait un brownie. Non, pas du tout. Ah bon ? Non, j'ai fait une maquette. Non, je voulais parler de l'impact du réchauffement climatique.
Ah oui, c'est bien aussi, ça.
Mais après, on pourra manger, si tu
veux. Ah, s'il te plaît, j'ai faim.
Moi aussi. Non, en fait, le problème du réchauffement climatique, c'est que ça dérègle le cycle de l'eau. Alors, il y a de plus en plus des phénomènes de sécheresse et aussi d'inondations, c'est désagréable.
Ah bah oui, quand il pleut énormément, que tout déborde, quoi.
Voilà, alors, en pleine nature, bon, l'eau s'infiltre là où elle tombe, elle est comme qui dirait, épongée par la terre. Mmh. Oui, ça éponge bien. Mais en ville, le problème... C'est que le goudron, il absorbe pas.
Et donc ça déborde.
Attends, laisse-moi filmer ça en hélicoptère pour bien se rendre compte de toute l'étendue des dégâts. Oh là là, c'est incroyable. Regardez-moi l'étendue de tous ces dégâts, Michel Clapat. Attention.
Voilà, donc la catastrophe est maintenant terminée. Petite question de rattrapage pour toi, Sacha. Comment peut-on limiter les inondations en ville ?
Facile, en limitant la pluie.
En limitant la pluie ?
Non, c'est pas possible.
Non. Enfin, en revanche, on peut essayer de mettre de la verdure un petit peu partout. Par exemple, de la végétation sur les parkings, créer des espaces verts, multiplier les jardins partagés.
Ouais, enfin, en gros, tout ce qui peut permettre à l'eau d'être épongée là où elle tombe.
Exactement. Ainsi, on favorise l'infiltration.
D'accord. Mais alors, petite question. Pour les rivières, est-ce que ce serait pas plus simple de moins bétonner les berges ?
Très, très bon. Eh oui. Effectivement. Comme ça, si une rivière sort de son lit, l'eau peut être absorbée. Wow. C'est un phénomène naturel. Alors ici, nous avons le lit mineur hein, de la rivière. Autour, le lit...
Majeur.
Majeur, absolument. C'est marqué dessus. Alors, si on construit dans les zones inondables, c'est très dangereux.
Bah oui, c'est pas prudent.
Bah c'est pas prudent. Démonstration. Ouais. Ça déborde.
Ouais. Oula. Et la zone inondable est inondée, en fait.
Absolument, d'où son nom de zone
inondable.
Voilà, alors malheureusement, on ne peut pas aller faire de petits tours en hélicoptère parce que cet épisode touche à sa fin. Voilà, nous venons de tourner en direct de notre cuisine avec mon formidable voisin, Sacha. Le prochain épisode de CCPS, c'est pas compliqué si c'est bien expliqué, portera sur la vie des cours d'eau.
Voilà, c'était une petite vidéo introductive du coup sur changement climatique et cycle naturel de l'eau, plutôt au point de vue quantitatif. Moi, je veux vous parler plutôt au niveau de la qualité de l'eau aussi. Alors, plutôt les constats en fait qu'on fait à l'heure actuelle. Et après, à la fin, j'essaierai d'aborder aussi quelques pistes, enfin quelques amplifications de ce phénomène lié au changement climatique. Alors, si je peux passer la diapositive. Et oui, avant, je me présente quand même, Frédéric Montigny. Donc, je travaille à l'Agence régionale de la biodiversité Nouvelle-Aquitaine. Donc, je suis chargé d'études eau. Donc, voilà, quand on parle d'eau, déjà, enfin, de qualité d'eau, qu'est-ce que la qualité de l'eau ? Donc, bon, c'est des petits rappels. Hein. Là, on a vu sur le cycle naturel de l'eau au niveau quantité, mais au niveau qualité, bon, dans la nature, en fait, l'eau pure H2O, ça n'existe pas. En fait, c'est voilà, vu que l'eau, c'est un très bon solvant. Elle va se charger de différents composés au travers du cycle de l'eau, des terrains qu'elle traverse, etc. Et donc, voilà, c'est juste ce principe-là. Donc, tout au gré du cycle de l'eau, alors que ce soit le cycle, on dit le cycle naturel de l'eau, donc précipitation, évapotranspiration, puits de condensation et retombée. Et aussi donc, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, le cycle urbain de l'eau, mais on en parlera plutôt tout à l'heure. Donc au niveau de l'utilisation pour l'eau potable et après de rejet une fois les eaux assainies. Donc tout ça pour dire que voilà, la composition de l'eau, donc on ne parle pas même pas d'eau en tant que telle, mais des eaux, on parle plutôt de la qualité des eaux, parce que la composition donc, au niveau chimique, pas que chimique, varie donc, dans le temps et l'espace, donc au gré du cycle de l'eau. Et donc cette qualité dépend de facteurs alors, à la fois naturels et aussi des activités humaines, bien sûr. Donc au niveau du contexte naturel, suivant la nature, la composition des sols ou des sous-sols, des terrains qu'elle traverse, on peut avoir des éléments qui sont présents naturellement, comme le sélénium, l'arsenic ou des choses comme ça qu'on retrouve naturellement donc, dans les sols et qui va aussi du coup être dissous par l'eau ou être absorbé, enfin, absorbé être présent après dans l'eau. On a également parfois on retrouve aussi une influence maritime, les eaux de pluie peuvent être un peu plus chargées en certains ions, chlorure, potassium, etc. sur la côte, donc voilà, tout au gré du cycle naturel de l'eau. Et il y a aussi également des altérations liées aux activités humaines, donc d'utilisation de l'eau, donc à la fois sur les différents usages, donc l'usage domestique par le prélèvement de l'eau pour la production après d'eau potable, et aussi au niveau surtout des rejets, donc les eaux usées donc qui sont rejetées dans les cours d'eau après être assainies au niveau des stations d'épuration. Donc différents composés qui peuvent être rejetés tout de même après assainissement. Il y a également donc, l'utilisation industrielle des eaux, donc à travers le même processus, mais là c'est plus pour pas pour la production d'eau potable, mais effectivement il peut y avoir des effluents liquides donc qui sont rejetés également après traitement. Et aussi bien sûr les activités agricoles donc qui eux peuvent impacter la qualité des eaux plus indirectement. Ça j'ai distingué donc là. Les deux premiers usages, donc domestiques et industriels, on parle plutôt de pollution ponctuelle dans le sens où il y a un point de rejet. Donc on peut identifier qu'est-ce qu'on rejette et on peut éventuellement le traiter. Tandis qu'au niveau agricole, donc c'est surtout tout ce qui est épandage dans les champs, utilisation d'engrais, de phytosanitaires. Et là, on parle de pollution diffuse parce qu'on n'a pas de point de rejet clairement identifié. Donc on n'a pas de solution... facile entre guillemets de traitement, c'est vraiment il faut agir à la source au niveau de l'utilisation pour pouvoir réduire en fait la pollution. Et donc la qualité de l'eau, donc je vous disais tout à l'heure qu'est-ce que la qualité de l'eau, aussi comment la mesure-t-on. Donc il y a différents contrôles de qualité de l'eau qui interviennent sur différents alors, types d'eau. Du coup à la fois sur les eaux brutes ou les eaux dans le milieu naturel, que ça soit pour la production d'eau potable, mais aussi pour la qualité du milieu en tant que tel. Après aussi, donc il y a des contrôles de qualité qui interviennent donc au niveau de l'eau potable après, donc avant et après traitement. Pour l'utilisation aussi au niveau des eaux de loisirs, enfin la baignade, et aussi pour des usages économiques, certaines industries ont besoin d'une certaine qualité de l'eau pour produire tel ou tel élément. Donc il y a différents contrôles de qualité qui interviennent à différentes étapes. Et la réglementation, les substances, les paramètres et les normes qui sont appliquées vont dépendre aussi de tous des usages et des enjeux. Ce ne sera pas forcément les mêmes paramètres ou les mêmes substances qu'on va rechercher dans le milieu ou pour l'utilisation d'eau potable au robinet, au niveau impact sur la santé. Et également, ce ne sera pas forcément les mêmes paramètres pour si on veut se baigner dans une certaine eau, on n'a pas forcément besoin de pouvoir boire cette eau, mais on a besoin de qu'elle soit pas nocive au niveau surtout du contact en fait. Voilà, tout ça pour dire par contre quand même, je sais pas si ça transparaît bien dans ce schéma là, mais la base, ça coule un peu de source si je peux me permettre, mais du coup c'est vraiment c'est l'eau brute dans le milieu, parce que de toute façon c'est sa qualité, enfin la qualité après des usages, enfin l'utilisation qu'on en fait va être forcément très impacté, enfin très très fonction de la qualité de l'eau brute à l'origine, que ce soit donc pour l'utilisation d'eau potable ou les différents usages. Donc c'est ça qui est vraiment déterminant, et c'est pour ça que je vais plutôt du coup après présenter un petit état des lieux sur cette qualité des eaux donc dans le milieu. Donc déjà, un petit rappel, alors, pour ceux qui ne connaissent pas également, il y a au niveau de la qualité des eaux, donc dans le milieu naturel, il y a la directive cadre sur de l'eau qui date maintenant de 2000, donc une directive européenne, donc, qui a été transposée en droit français, notamment. Après, c'est pas à moi d'en juger. Du coup, donc, qui a introduit cette notion de bon état écologique. Dans le sens où, avant, il y avait des indices biologiques qui étaient également utilisés pour qualifier la qualité de l'eau. Mais là, cette directive a introduit vraiment le fait que le milieu est évalué en tant que tel, pas forcément pour les usages qu'il y a derrière, mais la qualité du milieu en tant que tel. Ce qui fait que dans les calculs en fait, de qualification de l'eau, il y a beaucoup d'indices biologiques concernant les poissons, les invertébrés benthiques, les diatomées, qui sont utilisés, qui sont prépondérants dans le calcul. Il y a aussi tous les aspects physico-chimiques, donc j'ai juste remis un petit schéma rapidement pour classer en fait la qualité de l'eau selon cette directive. On a d'un côté le bon état écologique, de l'autre côté l'état chimique avec une certaine liste de substances dont les concentrations ne sont à ne pas dépasser. Mais on a quand même une prépondérance sur le fait que c'est l'état écologique qui est plus entre guillemets, fort en poids au niveau du classement. Et donc juste pour rappel, effectivement, cette directive, elle considère qu'une eau est en bon état lorsque c'est une eau qui permet une vie animale et végétale, riche et variée, une eau exempte de produits toxiques et une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages. Et là encore, on a quand même différentes classifications, différentes méthodes de calcul au niveau des eaux de surface ou au niveau des eaux souterraines. Et donc selon le dernier état des lieux, donc qui date maintenant quand même un petit peu de 2013, sur l'état des lieux des masses d'eau, on parle de masses d'eau, donc que ce soit les cours d'eau ou les lacs ou les eaux souterraines, au niveau donc à l'échelle régionale, donc de la Nouvelle-Aquitaine, on a seulement 36% des masses d'eau de surface qui sont en bon état écologique en Nouvelle-Aquitaine. La majorité en fait sont en état, on va dire, moyen. Donc voilà, on est déjà en fait dans une situation qui est pas satisfaisante, sachant que cette directive à l'origine, elle avait comme ambition et comme objectif que l'ensemble des masses d'eau donc françaises et européennes atteignent le bon état écologique dès 2015. Donc là, on est déjà très en retard par rapport à ça. Et alors, il y a différentes sources de dégradation de la qualité vis-à-vis de ce classement européen. Il y a des aspects hydromorphologiques, aussi des indices biologiques qui peuvent déclasser. Il y a aussi tous les paramètres physico-chimiques. Et donc, j'ai juste repris un exemple, cette qualité qui peut être dégradée donc, par les nitrates notamment. Donc là, il y a une grande partie de la région, donc ça c'est la carte, les zones qui sont en fait en bleu là sur la carte, qui est classée donc zone vulnérable pour les nitrates d'origine agricole. Donc c'est une directive également européenne qui classe ces zones à partir d'un certain seuil où il y a des risques notamment de que la qualité soit trop dégradée pour produire de l'eau potable après. Donc cette directive, donc elle a classé. Après, elle impose aussi des règles de conduite au niveau notamment agricole pour éviter que les nitrates se retrouvent dans les eaux. Donc, j'ai plus le pourcentage en tête, mais ça va être plus de la moitié de la région. En tout cas, en Ex-Poitou-Charente, on voit qu'on était quasiment concerné pour l'intégralité de la région. C'est un peu plus diffus en Nouvelle-Aquitaine, mais on a des eaux qui sont quand même. Il y a la problématique nitrate à ce niveau-là. Et donc j'ai appris, souterrain ou superficiel, donc même souterrain notamment. Par exemple, j'ai fait un petit graphique là, sur l'évolution donc, des teneurs, donc, des concentrations en nitrate dans les eaux souterraines de l'ex-région Poitou-Charentes. Alors, je ne sais pas si c'est très clair sur le graphique, non pas trop. Là, on est à peu près aux années 1980. Donc là, en bleu, c'est l'évolution des teneurs en nitrate. Et là, on est en 2014. Donc on voit quand même qu'on est sur une pente relativement ascendante, même si on a une certaine phase de stabilisation dans les années 2000, mais on tourne autour des 30 mg par litre de nitrate, sachant que pour que l'eau soit potable, il faut maximum qu'il y ait 50 mg de nitrate dans les eaux. Alors par contre, c'est aussi à pondérer, parce que les nitrates, ils peuvent être... La concentration peut varier beaucoup en fonction de la pluviométrie. C'est sûrement pour ça, d'ailleurs, les deux dernières années, en 2013 ou 2014, où il y a relativement plus, enfin beaucoup plus, qu'on a un certain pic. Donc c'est toujours un petit peu à pondérer. Donc en résumé, moi, j'ai pas encore parlé de changement climatique parce que c'est vraiment déjà, on a déjà une problématique actuelle, même si il y a déjà des effets qu'on mesure pas toujours forcément aujourd'hui du changement climatique, mais déjà actuellement, on a une situation qui est déjà tendue en fait. Alors à la fois au niveau quantitatif, mais aussi au niveau qualitatif, avec une dégradation un petit peu générale. Et donc c'est vrai que le changement climatique, je vais en parler un petit peu après, peut avoir des conséquences, mais l'évolution première, enfin la qualité des eaux, elle est déjà impactée en premier lieu par l'évolution des activités humaines, avant même de parler du changement climatique. Donc ça reste vraiment le premier facteur qui influence les ressources en eau. Donc est-ce que la population va augmenter ? Donc ça peut avoir plus ou moins de pression sur les ressources. Au niveau des orientations et des maintiens des activités économiques, donc l'agriculture, bien sûr, est une activité potentiellement impactante sur le milieu. Donc suivant les évolutions qui vont être prises et la gestion, on peut avoir des évolutions différentes. Et une autre petite parenthèse, donc je vais noter aussi, c'est vrai qu'il y a une relativement récente prise de conscience de nouvelles problématiques qui émergent. J'ai pas trop parlé de pesticides, etc., de nouveaux polluants comme vous avez sûrement entendu parler des perturbateurs endocriniens, donc que ça peut être certains pesticides, certains médicaments. On est entre guillemets au début des connaissances, même s'il y a déjà des choses quand même acquises là-dessus. Voilà, mais c'est vrai qu'au niveau communication, on commence à peine à en parler. Alors que au niveau de la recherche, on a déjà quelques connaissances à ce sujet. Voilà, donc c'est des nouvelles problématiques auxquelles il faut s'attacher également, tout en ayant déjà des problématiques actuelles sur d'autres substances. Et donc dans tout ça, le changement climatique, effectivement, donc il y a des risques qui amplifient certains phénomènes. Donc j'ai juste j'ai juste listé quelques tendances en fait, notamment qui sont issues du rapport à Climaterra, donc paru récemment. Donc il y a a priori un réchauffement qui va être plus marqué au printemps en été, un réchauffement des eaux, donc des périodes de canicule qui tendent à augmenter et des épisodes de froid qui diminuent. On a une température des eaux de surface qui tend également à augmenter. On l'avait observé sur des années passées, sur certains fleuves de la région. Pas forcément dans le futur, mais bon, voilà, en se basant sur les évolutions du passé, la tendance est quand même à l'évolution. Il y a différentes modifications qui ont été faites là-dessus. Et donc, la conséquence aussi, c'est quand la température augmente, c'est que l'oxygène dissous, du coup, va diminuer. Donc l'oxygène dissous, qui est indispensable pour la vie aquatique, voilà, il y a sûrement des conséquences à ce niveau-là également. Au niveau quantitatif, donc, il y a aussi l'évapotranspiration qui augmente, et donc l'humidité des sols qui va diminuer. Les débits des cours d'eau aussi ont tendance à diminuer, donc il y a eu des modifications sur le bassin d'Ourgaronne notamment, on était parfois je crois à moins 20, moins 50% de débit. Et tout ça, du coup, induit sûrement une pollution plus importante du fait de moindre dilution. Voilà, si on a moins de quantité d'eau, et effectivement, les produits vont peut-être plus se concentrer dans les eaux. Ça, c'est des effets attendus. Donc voilà, tout ça fait que les tensions sont encore accrues sur les ressources en eau, donc autant en disponibilité qu'en qualité. Donc je finirai, comme le président M. Lacroix, par une citation de Bernard Legube aussi au niveau de la publication Climaterra. Donc les impacts sur les ressources en eau de notre pays sont très importants, notamment sur le Grand Sud-Ouest, avec une forte diminution du débit des cours d'eau et du taux de recharge des nappes, ainsi qu'une détérioration très probable, de la qualité des eaux naturelles. Voilà, et je vous remercie.
On va prendre des questions. Oui. Est-ce que vous avez des questions ?
Je ne sais même pas si c'est une question ou si c'est un constat, puisque cette phrase de Legube qui parle d'une détérioration très probable de la qualité des eaux naturelles, ça fait maintenant, je dirais, 20 ans que c'est comme ça, en fait, hein, ou 30 ans peut-être. Et quand vous parliez tout à l'heure, Monsieur Lacroix, quand même des programmes qui existaient, le programme Ressources en particulier. Moi, ancien élu, donc j'ai voté, c'est effectivement donc, ce programme en particulier sur le captage de fleuries qui alimente globalement à peu près 40% de l'alimentation des pois de vin, enfin de grands potiers d'ailleurs, donc ce qui est un peu plus important. Et puis en fait, ces programmes, c'est comment dire, C'est une cotère ou du pipi de chat, c'est pour dire qu'on fait quelque chose, mais en fait on ne fait rien. Parce que depuis ces 20 ans ou même 30 ans, effectivement, que ce programme existe depuis un certain temps, la concentration en nitrate sur Fleury, elle continue d'augmenter et elle ne change pas. Et on a toutes les peines du monde donc à faire en sorte que les terres qui sont entourent, bon là ça commence à bouger un petit peu, semble-t-il. Grand Potier vient de récupérer 8 hectares autour de cette source, alors qu'il faudrait il aurait fallu le faire tout le bassin versant exactement. Donc ça veut dire qu'en même temps, il me semble que les politiques portent une responsabilité quand même, parce qu'on sait que ça se dégrade, on le sait depuis des années. La directive cadre sur l'eau, elle imposait des objectifs en 2015 qui ne sont pas tenus, et on reporte ces objectifs en 2027. Donc on d'une certaine façon on se fout de nous, quoi, je veux dire, je crois. Donc c'est pas, c'est, oui mais en même temps on est en train de on finance par ailleurs une usine de déshydratation. Donc ça veut dire qu'on trouve toujours des moyens là, par rapport, au lieu de gérer les problèmes à la source, on trouve toujours des moyens pour régler le problème après, à condition que ce soit le citoyen qui paye.
Je pense pas qu'une réponse serait véritablement attendue, du coup, c'est pas une vraie question, mais effectivement, ce que vous dites intéressant à la fin, au titre de l'agence, j'ai pas de vocation à dire telle ou telle solution serait la bonne, etc. Mais c'est vrai que quand on parle la qualité de l'eau dans le milieu, c'est déterminant, et c'est vrai que du coup, on se demande même si les coûts qui seraient associés à une préservation, à la source, du coup, seraient pas déjà moins importants que des traitements. Voilà. Après, faut pas opposer l'un ou l'autre forcément, mais effectivement, c'est une partie des.
On va passer à la présentation de Grand Poitiers, du coup, qui va nous parler du cycle de l'eau, potable. Donc, monsieur Guignard et madame Lelard.
Ouais. Donc, bonjour à tous. Yvonnet Guignard, donc, je suis responsable du centre d'activité milieu naturel à Grand Poitiers. Et j'ai aussi le plaisir d'être en charge de la mise en œuvre de la nouvelle compétence GEMAPI, donc gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. Et ma collègue.
Donc, Céline Lelard, je suis responsable du centre d'activité production d'eau potable à direction eau assainissement. Donc je pourrais notamment vous préciser certains points, notamment sur les programmes ressources. Tout à l'heure, j'y viendrai ultérieurement.
Et donc, comme nos collègues avant, on démarre par une vidéo d'introduction. Alors, je vais essayer de l'annoncer comme il faut. Hop, j'ai été trop vite. Hop. Oh, trop, c'est trop. Là.
Normalement, ça se lance tout seul.
C'est un ostracisme contre les collectivités ou... Ah si, ça charge. C'est qu'on n'a pas le son avec ça. Ah, si. En même temps, il n'y a que de la musique, donc... Donc les internautes sont plus forts que l'agence de l'eau Loire-Bretagne, puisque la vidéo, elle provient de l'agence. On patiente ou on zappe? Oui, mais oui. Bon, on la voyait, elle était en état médiocre tout à l'heure. Bon. Si ça sort pas, on la zappe, hein, si vous voulez. On va peut-être pas y passer. Là.
On reviendra dessus.
Voilà, donc ça voilà. Oui, elle était sympa, mais vous la trouvez en ligne. Donc elle reprenait plutôt l'ensemble des éléments qu'on a déjà évoqués.
et elle abordait les différents acteurs qui interviennent dans le domaine de l'eau. Donc là, on est un certain nombre à passer à la tribune et vous constatez qu'il y a des profils très divers. Et parmi les acteurs qui interviennent sur le domaine de l'eau, il y a donc les collectivités territoriales, donc les communes et les groupements de communes, donc du même type que Grand Poitiers. Donc on va passer au diaporama. Donc on va aborder plus spécifiquement la partie eau et eau potable pour ce qui concerne Grand Poitiers et le changement climatique. Donc parmi les questions qui nous ont été demandées de traiter, donc les impacts prévisibles sur la ressource en eau potable, donc les éléments dont on dispose et qu'on a déjà évoqué là depuis le début de cet après-midi, c'est la hausse des températures moyennes, des épisodes de sécheresse, des épisodes aussi catastrophiques au niveau orages et autres sur les territoires qui vont se généraliser. Globalement une forte disparité des précipitations sur les territoires, ce qui entraîne dans le domaine de la quantité une diminution des débits des rivières, on l'a déjà évoqué, et également des nappes, et notamment les relations nappes-rivières, et donc une diminution des ressources disponibles, donc c'est les quantités, les volumes qu'on évoquait tout à l'heure, et on n'a pas de qualité sans quantité, on l'a dit également, à savoir que il y a un certain nombre de capacités que les milieux ont, notamment d'auto-épuration ou de dilution, qui permettent d'atteindre un niveau de qualité et donc de se prémunir d'un niveau de contamination des milieux trop élevé pour pouvoir disposer d'eau potable sur le territoire. Donc ça, c'est une approche très production d'eau potable et assainissement de la problématique eau. Ce qui est plus nouveau, on va dire, dans l'approche, c'est une approche plus globale avec ce qu'évoquait l'Agence régionale de biodiversité juste avant, la prise en compte des milieux en eux-mêmes, parce qu'ils sont à la source de la qualité, si tant est qu'on leur laisse des volumes d'eau suffisants pour fonctionner. Donc quels sont les leviers, quelles sont les actions qui sont à la disposition des collectivités dans ce cadre-là, puisqu'on est sur ce triptyque quantité, qualité, milieu aquatique, en essayant de les faire fonctionner ensemble. Donc pour fonctionner ensemble, donc c'est ni un collier de perles ni un hochet, c'est d'essayer de symboliser également sous forme de cycle, puisqu'on a parlé du grand cycle de l'eau, et ou cycle naturel, et du petit cycle ou cycle technique, d'essayer de voir d'une manière cyclique comment on peut avoir un cercle vertueux qui permet d'avoir une meilleure prise en compte de la qualité de l'eau sur les territoires. Donc comme tout cercle, c'est pas facile de trouver le début, on va commencer par tout en haut, ce sera le plus simple. Donc il y a une question de coordination des acteurs, vous voyez qu'on est divers autour de la table, comme le dit un de nos directeurs, chacun est dans son couloir de nage, au bout d'un moment il faut réussir à passer en travers et de faire un petit peu de transversalité. C'est un terme qu'on entend de plus en plus, mais il faut que ça devienne une réalité, avec la nécessité de coordonner les acteurs qui s'occupent de l'eau sur un territoire. Et on a essayé de vous illustrer par un outil pris au hasard, il y en a d'autres, mais donc un des outils de coordination, ce sont les SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion de l'eau, et notamment les clés, les comités locaux de l'eau, où l'ensemble des acteurs du territoire peuvent essayer de coordonner ou en tout cas de partager leur point de vue. Donc ce qui nécessite ou ce qui permet d'avoir une approche par bassin versant et non plus une approche chacun son flux, son flux d'eau potable, son tuyau d'eau potable, son tuyau d'assainissement, sa rivière, mais bien de se rendre compte qu'on est sur un bassin versant, donc un système complexe, qui nécessite que tout le monde se soucie de ce que fait le voisin. Donc, de conditionner les politiques publiques à cette prise en compte et à cette approche par bassin versant, ce qui s'oppose un peu à une approche par découpage administratif. On a rarement découpé les collectivités en fonction du bassin versant. Donc, ça veut dire qu'il faut travailler entre collectivités pour tenir compte, par exemple, d'un chevelu ou d'une tête de bassin versant qui n'est pas forcément chez nous, mais chez le voisin, ou le voisin encore plus loin. Mais c'est bien là que naît la qualité de l'eau que nous, on entend distribuer aux gens. Donc voilà, il faut réussir à aller au-delà des frontières administratives. Parmi ces outils, il y a les outils qui sont liés aux documents d'urbanisme et également les outils qui sont liés au schéma de cohérence territoriale, donc la coordination des différents documents d'urbanisme à l'échelle d'un territoire. Après, il s'agit de rentrer dans le dur, hein, de mettre les mains dans le cambouis et de conduire des actions sur le territoire et de réguler un petit peu les usages, les actions des différents acteurs. Donc, c'est notamment l'objet des contrats territoriaux au milieu aquatique qui sont portés par des syndicats de rivières dont les collectivités sont membres et qui visent à essayer de ménager les milieux et de ménager les usages qui en sont faits. L'objectif du point de vue de la production d'eau potable, c'est bien de restaurer les fonctionnalités des écosystèmes, c'est-à-dire d'avoir un ensemble d'actions locales sur la biodiversité, notamment la biodiversité aquatique, pour restaurer la capacité des milieux à s'auto-épurer ou à résister ou à absorber des charges polluantes, par exemple. Donc la préservation de ces fameux services écosystémiques, hein, les services rendus par la nature, en l'occurrence là, le volet un peu potabilisation de l'eau au naturel, de manière à atteindre le bon état écologique des masses d'eau qu'on a évoqué dans le cadre de la DCE notamment, ce qui nécessite de coordonner ces différentes actions à l'échelle d'un territoire hydrographique et pas un territoire administratif, c'est-à-dire inciter des syndicats de rivières qui très souvent aussi travaillent chacun sur leur périmètre à se rendre compte qu'ils ont un intérêt commun de notre point de vue, puisque l'eau ou les cours d'eau traversent l'ensemble de ces territoires-là. Et l'outil principal pour les collectivités pour essayer de mettre en musique ces actions-là, c'est notamment les actions qui visent à adapter le territoire au changement climatique, donc à le rendre moins impactant sur le cycle naturel de l'eau. C'est notamment les documents d'urbanisme, c'est choisir, comme on l'a évoqué, de moins imperméabiliser les villes, de mieux utiliser les capacités des sols. Voilà, c'est essayer de ménager l'occupation du terrain et le fonctionnement naturel du cycle de l'eau. Et vient se greffer sur ce grand cycle naturel de l'eau le petit cycle qui nous occupe plus particulièrement maintenant, le cycle technique avec les actions de production et de distribution d'eau potable, donc notamment les programmes ressources qu'on a évoqués et d'autres actions qui peuvent viser à la protection de cette ressource eau potable. Et puis une fois qu'on a produit, en tout cas prélevé de l'eau, qu'on l'a distribuée aux gens, qu'ils l'ont salie, il s'agit de la nettoyer avant qu'elle retourne dans le cycle naturel. C'est là qu'on retrouve toutes les questions de qualité des process de traitement, de qualité des rejets et la problématique de la capacité de dilution du milieu si on est sur un étiage et notamment un étiage sévère. Et la question qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce qu'on pollue un petit peu partout en se disant que les milieux naturels peuvent absorber, ou est-ce qu'on concentre tous les polluants en une unité en se disant qu'on a intérêt à ce qu'elle marche bien. Donc je vous propose juste de changer le mode d'illustration, mais ça revient un petit peu au même, et c'est plus le côté aménagement du territoire, et donc adaptation du territoire au changement climatique. C'est les différentes préoccupations qu'on peut avoir lorsque l'on se dit on va faire de l'eau le fil conducteur de l'aménagement du territoire sur les collectivités. Alors il y a plein d'autres choses, hein, j'en ai mis que quelques-unes. Il y a des choses que l'on imagine très facilement, hein, il y a tout ce qui relève du risque inondation, inondation par cours d'eau. Ça, souvent quand on parle d'inondation, on parle d'inondation par cours d'eau. Sur le territoire de Grand Poitiers, les derniers événements un peu musclé qu'on a eu sur le territoire, c'est plutôt des événements liés à des inondations liées au ruissellement urbain et pas au débordement des cours d'eau. Donc ça pose la question de l'aménagement du territoire, parce que si on a moins d'eau, mais de temps en temps des orages extrêmement sévères, comment on traite ce ruissellement? Et une fois qu'il a lessivé des surfaces imperméabilisées qui depuis longtemps n'ont pas connu l'eau, donc ont accumulé des polluants, tout ça déboule à l'exutoire qui est la rivière. Comment on traite ce type de problématique? Donc ça pose la question de la perméabilité des sols et de réfléchir à la circulation de l'eau et également l'eau ruisselée à l'échelle du bassin versant que peut former ou du sous-bassin versant que peut former la ville. Donc on rejoint également les questions de capacité d'auto-épuration, de dilution, la disponibilité de la ressource. Alors c'est aussi une problématique en termes d'aménagement du territoire, la disponibilité de l'eau, c'est aussi la défense incendie. Il y a un moment, J'entendais à la radio l'autre jour qu'en Creuse, qui n'est pas le château d'eau du Poitou et des Deux-Sèvres, mais le château d'eau de la France, c'est les pompiers qui emmenaient 100 mètres cubes d'eau par camion pour remplir les châteaux d'eau, parce qu'il n'y a plus d'eau en Creuse. Ils remplissent les châteaux d'eau. Si c'est les pompiers qui déboulent, les 100 mètres cubes, ils sont vite partis. Donc la défense incendie, c'est aussi une préoccupation lorsqu'on commence à se poser des questions de disponibilité de ressources. C'est aussi une question sur les mouvements de terrain. Il y a certaines personnes sur le territoire de Grand Poitiers qui ont le plaisir de découvrir qu'ils ont des maisons construites sur des argiles gonflantes, donc qui bougent de manière différentielle en fonction de l'hygrométrie des sols. Donc des événements réguliers de sécheresse prolongée, d'orages sévères risquent d'amplifier ce type de phénomène. Et donc on rejoint la question du bilan hydrique des sols qui touche l'occupation de la ville, mais qui touche aussi l'activité agricole, puisque des sécheresses sévères, même en arrosant à gogo, au bout d'un moment, on atteint très rapidement les limites du sol lui-même. Et plus de manière un peu plus anecdotique, il y a les questions de mobilité. Les cours d'eau, en moins à Poitiers, c'est un peu plus vrai ailleurs, ont souvent été soit des voies de circulation, soit des barrières à la circulation. Et en fonction des ouvrages qui sont présents pour permettre soit le franchissement, soit la circulation, on est dépendant aussi des niveaux d'eau par rapport à la tenue dans le temps de ces ouvrages. Je pense aux ponts notamment et au transit sédimentaire. On parlait de la migration des poissons. Il y a aussi la question du transit des sédiments. Une rivière, elle arrache des sédiments naturellement au fil de sa circulation. Si on les bloque par des ouvrages ou des plans d'eau, il manque à un moment, et il arrive qu'il manque au droit des piles des ponts. Donc ça s'érode, et on se pose la question des ouvrages de franchissement et de la mobilité des gens sur des ouvrages qui sont fragilisés parce que le cycle naturel de l'eau et le transit des sédiments n'est pas suffisamment pris en compte. Et donc maintenant je vais laisser la parole à Céline sur le volet vraiment plus cycle technique de l'eau.
Du coup, avant de vous expliquer un petit peu quelles actions Grand Poitiers met en œuvre pour faire face au changement climatique, juste vous dire que la direction eau assainissement de Grand Poitiers donc est une régie qui produit et distribue l'eau potable, mais également qui collecte les eaux et les traite. Donc on distribue de l'eau à environ un peu plus de 140 000 habitants. Ça représente un peu plus de 50 000 abonnés. Et sur une année, on prélève environ entre 9 millions et 9,3 millions de mètres cubes par an. Voilà, donc c'était pour vous situer un petit peu le contexte de l'alimentation en eau potable sur Grand Poitiers. Alors là, je parle que de Grand Poitiers à 13, donc les 13 communes historiques du Grand Poitiers. Les 27 autres communes de Grand Poitiers sont gérées par Eau-de-Vienne Civert. Donc, pour revenir aux actions de Grand Poitiers face au changement climatique, donc en fait la base en fait c'est déjà de suivre régulièrement l'état des ressources en eau exploitées pour l'eau potable. Donc, on utilise soit des données de la banque hydro, par exemple le débit du Clain. Et on est équipé également de sondes de niveau d'eau dans nos différents captages. On a sept ressources en eau, une prise d'eau en rivière qui est le Clain, qui est captée à Saint-Benoît. Et puis on a six autres ressources en eau souterraine. Donc sur chaque ouvrage de captage, on a une sonde piézométrique qui mesure le niveau d'eau. Donc on suit... Alors ça nous permet de gérer au quotidien l'exploitation, mais ça nous permet également... de voir l'état de la ressource en eau, de voir si elle se recharge, quelle est l'ampleur de la recharge, l'ampleur de la vidange, et de pouvoir comparer en fait ces données avec tout un historique de données qu'on a accumulé depuis un certain nombre d'années. Donc là, vous avez illustré sur la diapo alors plusieurs graphiques. Donc il y a le débit du Clain, et puis
c'est lequel du coup?
Voilà. Donc là, c'est la station du Clain. Donc on a là, par exemple, en la courbe en bleu foncé, c'est le débit de 2018. Donc on voit bien que si le tout début d'année était marqué par des fortes précipitations et un débit du Clain qui était au-delà du débit moyen depuis le mois de juin, on est en période quand même sèche qui se poursuit actuellement. Donc il suffisait de parler du train du climat pour qu'on ait un petit peu de pluie hier. Donc on va voir les effets, mais il faudrait que ça perdure un petit peu plus longtemps. Et puis voilà, on voit que là aujourd'hui, on est passé sous la moyenne. Et puis on a des seuils. Donc vous avez le seuil de crise qui est en tiré en petit pointillé. En fait, ça c'est vraiment... initialement, ça sert pour les prélèvements à usage agricole. Donc c'est le seuil à partir duquel tous les prélèvements en rivière sont interdits sur l'ensemble du bassin du Clain, et où on a une réduction de 50% du volume prélevé dans les nappes. Donc ça, c'est pour l'usage irrigation. Voilà. Donc c'est pour... on a comme ça, par ressources, on a des indicateurs et des seuils à ne pas dépasser. J'y reviendrai plus tard sur ce seuil et sur le franchissement de ce seuil, ce que ça peut induire. Là, nous avons donc le débit de l'aqueduc de Fleury. Donc la Fleury, monsieur disait, c'est effectivement une des ressources principales de Grand Poitiers qui alimente entre 30, 40%, voire 50% par rapport à la production totale. Donc pareil, on suit le débit en continu de la source de Fleury, donc qui arrive jusqu'à l'usine de traitement de Belle-Joanne à Poitiers. Donc pareil, on regarde, on la compare par rapport à notre historique de données. Donc c'est effectivement que depuis 2012 qu'on a un enregistrement en continu, mais ça permet quand même de pouvoir situer l'année par rapport aux précédentes. Donc on voit là la courbe en verte qui est la courbe 2018, que c'est la même, un petit peu comme le Clain. On a eu un début d'année qui était pas si mal, un printemps plutôt pluvieux. Et puis, on voit bien le... Non, c'est pas ça. Ah. Je vais revenir, voilà. Donc on voit effectivement sur... On a là le petit phénomène qui était lié aux précipitations du mois de juin. Donc on a une ressource qui varie et qui répond plutôt bien aux précipitations. Et puis depuis, on a une ressource qui est en baisse. Donc c'est un indicateur de l'état des ressources. Et là, ça fait quand même deux années de suite où on voit une ressource qui est très basse et qui est très basse longtemps dans l'automne et dans l'hiver. Alors là, voilà, d'autres courbes qui nous permettent de suivre l'état de la ressource en eau. Là, c'est un piézomètre qui permet de voir la ressource sur Migné-Auzance. Donc là, c'est la station des Lourdines. Donc c'est des courbes classiques qui nous sont utiles pour avoir un aperçu. Et puis, on regarde effectivement la qualité de l'eau. Donc il n'y a pas que la quantité, on regarde aussi la qualité, parce qu'effectivement, la qualité, en général, quand on a beaucoup d'eau, on va avoir plutôt des pics de pollution, nitrates, pesticides, turbidité. Et puis en période de sécheresse, on a plutôt une bonne qualité d'eau. Donc finalement, la sécheresse est plutôt intéressante. Donc cette année, on a une... À part en début d'année, vous voyez, on est monté quand même à presque 54 mg par litre en nitrate, donc avec des pics importants. Mais en moyenne, on a plutôt une qualité qui, là, doucement, se rapproche des 40 mg par litre. Donc, au-delà de ce suivi qui est réalisé toutes les semaines, et puis alors de manière un petit peu plus détaillée, plus rapprochée en situation de sécheresse, donc on a tout un panel d'actions pour s'adapter au changement climatique. Donc on va développer d'abord les économies d'eau et assurer une meilleure efficience de l'utilisation de l'eau. Donc on en a pas mal entendu parler, ça a été beaucoup relayé aussi dans la presse, dans les journaux spécialisés, de la lutte contre les fuites du réseau d'eau potable. Donc, alors, on est quand même, avec toutes les actions qui ont été mises en œuvre, c'est-à-dire la sectorisation du réseau, donc la compréhension en fait, du réseau, savoir quels sont les volumes qui entrent, qui sortent par zone. On a posé un peu des sortes d'oreilles sur les réseaux pour pouvoir écouter les fuites et pouvoir les localiser rapidement pour ensuite les réparer aussi rapidement. Donc on a amélioré le rendement du réseau de un peu moins de 75% en 2013 à plus de 86% en 2017. Donc on a vraiment économisé de l'eau. Ça représente, là par rapport à 2013, 1 million de mètres cubes quand même prélevés en moins dans la ressource. Ce qui n'est pas négligeable. Donc on poursuit ces actions de lutte contre les fuites du réseau d'eau potable pour essayer, alors là ça va être compliqué hein, d'augmenter le réseau, mais au moins d'augmenter le rendement, mais au moins le maintenir à ce bon niveau. C'est également limiter la consommation en eau potable de la collectivité, c'est-à-dire que la collectivité se doit aussi d'être exemplaire dans son utilisation de l'eau. Donc la direction Espace Vert, par exemple, met en place du paillage, du fleurissement adapté à la sécheresse, de l'arrosage en goutte à goutte, gestion automatisée de l'arrosage des terrains de sport, récupération des eaux de pluie, des eaux de piscine, enfin voilà, vraiment limiter au maximum l'utilisation de l'eau. La direction Propreté également, maintenant la lutte anti-tac, c'est par solution sèche. On récupère et récupère aussi les eaux de piscine déchlorées pour le nettoyage des espaces publics. Maintenant, c'est plutôt du balayage de la voirie plutôt que du lavage à grandes eaux. Et puis, la direction immobilier, donc celle qui s'occupe de tout le patrimoine bâti de la collectivité, donc c'est installer des systèmes hydroéconomes dans les bâtiments publics, donc les mousseurs au robinet, les boutons poussoirs dans les toilettes des écoles, par exemple. L'analyse des consommations des bâtiments, pour essayer de voir effectivement quels sont les gros consommateurs et quels sont les leviers. Et puis un comptage systématique. Il y a quelques années encore, il y avait certains usages qui n'étaient pas comptés, donc ça n'incitait effectivement pas, quand on n'a pas la connaissance, difficile de se corriger. Les actions préventives, c'est également accompagner le développement d'activités et une occupation des sols qui sont compatibles avec la préservation de la ressource en eau. Donc, Yvonique en a parlé, c'est prendre en compte l'enjeu eau dans les documents d'urbanisme. Donc là, on est effectivement sur vraiment l'aménagement du territoire. Et puis, c'est mettre en œuvre des programmes d'action de reconquête de la qualité de l'eau sur les captages prioritaires donc, de Grand Poitiers. Donc, on en a parlé, c'est les programmes ressources. Donc les programmes ressources sont des démarches multipartenariales, sont des démarches volontaires. Et je vous assure que la collectivité met toute la bonne volonté pour arriver à reconquérir la qualité de l'eau. Effectivement, il y a un premier programme, on parlait de Fleury, qui effectivement n'a pas donné les résultats attendus. Après on reparle sur une nouvelle base. Toutes les partenaires en tous les cas sont présents autour de la table, donc toutes les idées, tous ceux qui peuvent s'exprimer en tous les cas et qui ont des choses à exprimer peuvent le faire à cette occasion-là. Il faut savoir effectivement qu'il faut faire avec les activités en place, donc on ne change pas une activité comme ça du jour au lendemain, même si effectivement ça fait bien longtemps que c'est déjà entamé, mais voilà, il y a un rôle d'accompagnement, il y a aussi un accompagnement technique, accompagnement financier qui est important. Donc là je vous ai cité quelques actions dans ces programmes d'action, donc c'est la couverture des sols pour éviter tout ce qui est perte en nitrate, fuite en nitrate. Aménager l'espace pour réduire les transferts, puisque sur Fleury en particulier, mais on l'aura également sur la prise d'eau dans le Clain à la Varenne, on a des transferts rapides, hein, des ruissellements. Donc il faut pouvoir à un moment donné piéger ces eaux pour éviter qu'elles n'arrivent au captage. Donc là, on va jouer plutôt sur les pics. Et puis, on essaye de faire évoluer les systèmes agricoles. Donc là, effectivement, c'est la conversion en agriculture biologique. C'est des pratiques un peu plus raisonnées. Donc c'est inciter faire des démonstrations, des journées techniques. La Grand Poitiers est en train aussi de mettre en place un projet alimentaire territorial, donc à l'échelle de la collectivité. Donc l'objectif, c'est de pouvoir aussi développer des filières sur le territoire, donc des filières locales sur le territoire qui sont compatibles avec la ressource en eau. Et puis, donc en action préventive, on a également, là, donc on en a parlé un petit peu avant, la mise en œuvre des contrats territoriaux milieux aquatiques, donc portés par les syndicats de rivières, et avec lesquels il faut une coordination, puisque on voit effectivement que on a une approche, dans les deux cas, une approche bassin versant, et qu'on peut, par une même action, contribuer à la qualité des milieux aquatiques et à la qualité de l'eau pour l'eau potable. Et puis, les actions préventives, c'est ce qu'on essaye de mettre en avant. Mais en situation de sécheresse, il faut recourir à des actions curatives. Donc, c'est notamment les restrictions des usages domestiques de l'eau. Donc, quand il y a franchissement du débit de coupure du Clain, donc comme je vous ai montré sur le graphique précédent, qui entraîne une restriction des usages agricoles. Donc la position en tous les cas de la ville de Poitiers, c'est de prendre un arrêté municipal de restriction des usages domestiques de l'eau, hein, pour aussi participer à cet effort d'économie d'eau. Donc on voit que on l'a pris quand même, on le prend régulièrement. Donc en 2011, 2012, 2013, on a eu après des années plus humides. Et puis là, 2015, 2017, 2018, donc on a pris tardivement fin septembre. Donc là, effectivement, on appelle à ce que tous les abonnés, les citoyens, fassent attention aussi à leur consommation à la maison. Et puis alors là, c'est plus pour l'exploitation, c'est qu'on module les prélèvements entre les ressources. C'est-à-dire que je vous ai expliqué qu'on avait plusieurs ressources. On a l'avantage d'avoir un réseau de distribution qui est maillé. Donc on peut en fait prendre une ressource et la transférer dans une autre zone de distribution, si vous voulez. On peut alimenter une zone de distribution par plusieurs ressources. Donc là, par exemple, on a limité au minimum le prélèvement dans le Clain en augmentant d'autres prélèvements dans d'autres ressources pour essayer de limiter la pression sur le milieu. Donc voilà, on essaye aussi de participer à ce que les milieux aquatiques fonctionnent convenablement. Et voilà, c'en était tout.
Merci. Est-ce que vous avez des questions ?
On a les mêmes causes et les mêmes effets en Deux-Sèvres. Hein. Toutes les ressources sont mises en communication. Et j'appelle ça, moi, les Shadocks du 21e siècle.
Parce que... Pourquoi ?
D'un réservoir dans l'autre, on pousse à l'autre.
Alors,
nous, on parle de la Loire.
Alors non, le...
J'en arrive à faire des mélanges pour que l'eau soit rendue potabilisable, je ne vais pas dire, potabilisable en mélangeant les eaux.
Oui.
Là,
l'objectif, c'est pas de les diluer et de les rendre potables, en fait. Là, c'est vraiment sécuriser, en fait, la distribution. C'est-à-dire que là, on pense vraiment à la distribution de l'eau et aux abonnés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on a une défaillance sur une ressource, et les défaillances, c'est pas forcément... parce qu'il n'y a plus d'eau dans la nappe, heureusement ça nous est jamais arrivé, ou parce que la qualité est trop mauvaise, c'est aussi, peut y avoir une défaillance électrique, hein. Un pompage qui une pompe qui est HS, donc il faut pouvoir pallier à ces défaillances. Donc l'interconnexion, le maillage du réseau permet de sécuriser l'alimentation en eau potable. Donc c'est effectivement, ça a des
ça a des désavantages, mais ça a beaucoup d'inconvénients sur la continuité de, pour beaucoup d'avantages pour la continuité de service.
Oui, je crois que ce débat est extrêmement intéressant. L'étude de 2013-2014 sur donc changement climatique en Aquitaine, la première version a été passionnante. La deuxième version, là, qui est sortie l'année dernière, est aussi intéressante, et d'où l'intérêt de ces choses-là. Mais je suis tout à fait d'accord avec le pêcheur de Sèvres. Je veux dire, il vaudrait mieux prélever de l'eau propre qu'avoir à laver de l'eau sale. Il y a 30 ans, hein, bon, je ne suis pas un spécialiste de l'eau, mais il y a 30 ans, j'étais élu vert, et arrivé à Poitiers, on avait demandé, en 1989, que Poitiers fasse ce que les gauchistes de New York ou de Munich font depuis un siècle, c'est-à-dire acheter des zones près des sources pour avoir une eau qui n'était pas nécessaire de traiter. C'était il y a 30 ans, tu parles. À l'époque, on était à moins de 20 mg. Là, vous parlez de 40 mg. Donc, ça n'a pas été fait. Maintenant, il faut dénitrifier. Ça coûte... en partie parce qu'on est passé de 20 à 40. Ça a sérieusement augmenté. Moi, en 92, je me souviens, j'étais élu aussi régional, d'un débat extrêmement intéressant. Mais on était contre le lobby agricole, parce qu'on n'en parle pas. Là, j'ai le lobby agricole qui arrivait. Et première subvention qui passe, on devait voter une subvention pour drainer le marais de Brouage, au pied de la forteresse de Brouage. Chacun, même étant pas spécialiste, savait très bien, donc si on drainait toutes les cochonneries, aller dans le bassin ostréicole. Bon, on a réussi à se combattre. Après, il y avait 4 grands barrages de la région, la Touche-Poupard, la Moulde, la Trésance et Machaban. Il y a eu un combat épique qui a continué un petit peu. Et la région a mis moins d'argent. Et puis de l'autre côté, eh ben, les particuliers, les communes, ont économisé l'eau de façon remarquable, à Poitiers en particulier, mais le prix de l'eau a sérieusement grimpé. Hein, on est passé à 3 mètres cubes et demi pour une famille, ça fait 300 à 500 euros, ce qui n'est pas négligeable. Et de l'autre côté, ben, on va faire des bassines, et puis là, c'est l'hystérie la plus complète. Alors, les habitants des villes payent une eau de plus en plus chère, et de l'autre côté, on la pollue davantage. Vous me direz que les écolos n'ont pas les moyens qu'avaient les chasseurs, par exemple. Déjà à l'époque, il y avait un conseiller scientifique qui s'appelait Coste. Hein, vous avez entendu parler de lui ces jours-ci. Il a commencé sa carrière comme conseiller pour faire du lobbying auprès des 4 chasseurs de la région. Je ne vous parle pas en 92, je ne donne pas le nom, mais je donnerai tout à l'heure, de l'élu régional vice-président, président de la mutualité agricole, qui pleurait pratiquement quand il racontait les barrages du Tigre de l'Euphrate qu'il avait visité. Il fallait qu'on fasse la même chose. Donc si cette logique, même chose en Poitou-Charentes, hein, et cette logique productiviste qui nous amène aujourd'hui à payer l'eau de plus en plus cher, alors qu'on est une zone, tant que le changement climatique n'est pas avéré, puis on ne sait pas trop, qui a encore suffisamment d'eau. Je crois qu'il y a suffisamment d'études précises faites aujourd'hui. Monsieur le pêcheur a tout à fait raison. On s'en fout complètement, on parle de raisonnable et de raisonné. Mais je crois qu'il y a des choses simples à faire. Si on ne veut pas que l'usager paye de plus en plus cher une eau qu'il faudra nettoyer, il faut changer de type de production. Alors, pour aller un petit peu de l'autre côté, du côté de l'industrie, il faut quand même voir, c'est toujours la même époque, quand le projet de Civo, j'arrêterai là, a été annoncé en 1979, hein, puis fait un petit peu après, 10 ans après. Bon, on ne s'est pas préoccupé de savoir, à ce moment-là, on devait prendre de l'eau près de la Vienne. Bien sûr, il n'y avait aucune communication scientifique entre la nappe d'Artige et le bassin et Châtellerault. Donc, il y a d'un côté des faits scientifiques incontestables que l'on trouve donc dans l'ouvrage de Lutreut sur l'eau, sur le changement climatique. Et de l'autre côté, il y a des politiques qui continue à avoir 30 ans ou 40 ans de retard. Je crois qu'il serait temps que l'opinion associative, les amis des poissons qui sont également les amis de l'eau, puissent se réaliser et qu'on fasse autre chose, que la prochaine fois qu'on fera une conférence ici, on soit pas à 70, 80 mg. Alors là, on devra mélanger cette eau-là avec je ne sais pas quoi, hein, peut-être pomper directement dans les nuages. Je crois que l'intérêt de ces débats-là est passionnant et intéressant. Il faut espérer que dans 10 ans, il y aura eu des actions précises.
Alors, vous avez dit beaucoup de choses. Alors, je vais essayer de répondre. Alors, on ne traite pas les nitrates. Donc ça, voilà, c'est, on mise uniquement sur les actions préventives. On traite effectivement, par contre, les pesticides. Pour certaines ressources, uniquement Fleury et puis le Clin, c'est nettoyer l'eau, traiter l'eau, on en a besoin pas que pour traiter les pollutions diffuses, enfin les pollutions pesticides, il y a aussi des faits, la turbidité, naturellement dans l'eau qu'on est obligé de traiter. On traite aussi le fer dans une eau qu'on capte à Saint-Georges-et-Baillargeaux. Donc il y a aussi des pollutions naturelles qu'il faut traiter, donc ça, voilà, il y a pas, ce n'est pas lié qu'à aux activités humaines. Ensuite, alors vous avez dit tellement de choses que je ne sais plus.
Je crois que ça n'apportait pas forcément réponse.
De réponse.
Non. Sur les politiques, si, alors, oui. Prise en compte du changement climatique dans les politiques pour pas avoir trop de retard.
Oui. Alors du coup, alors prise en compte des politiques dans les changements climatiques, effectivement, c'est la prise en compte, enfin, est récente. Elle a quelques années maintenant, mais sur l'eau potable, en tous les cas, je pense que on a un président à Grand Poitiers qui affirme quand même assez haut et fort l'enjeu de santé publique et ce qu'il veut faire pour reconquérir la qualité de l'eau. Donc je pense qu'il prend pas, enfin il prend vraiment au sérieux cette question de l'eau potable. Et moi, comme je disais tout à l'heure, hein, les associations d'environnement, les associations de consommateurs sont présentes au comité de pilotage des programmes ressources. Donc c'est là aussi qu'il faut qu'elles soient force de proposition. Et j'ai déjà dit à plusieurs reprises, y a aussi un rôle, il faut aussi une prise de conscience des citoyens, c'est-à-dire qu'on ne peut pas en même temps être exigeant sur la qualité de l'eau potable, que souvent d'ailleurs on ne boit pas. Alors, je suis désolée, hein, là en plus on a des petites bouteilles d'eau en plastique, j'aurais bien aimé voir les carafes. Et moi, j'aimerais bien aussi que les citoyens acceptent d'acheter des produits, produits localement, biologiques pourquoi pas, en tous les cas faits d'une manière raisonnée, et qu'ils payent le juste prix de leur production. Donc il faut aussi arriver, et je pense que les associations de consommateurs aussi ont ce rôle à jouer, c'est-à-dire de sensibiliser aussi les consommateurs à ce qu'ils font au quotidien, c'est un acte, les achats, leur consommation est responsable aussi de ce qui se passe aujourd'hui et de la qualité de l'eau brute et de l'eau potable.
Juste une petite remarque dans ce que vous dites, que les citoyens, il faut qu'ils se prennent les associations d'environnementalistes, les pêcheurs, c'est ça. J'assiste, moi, à pas mal de réunions, SAGE, CLÉ, SDAGE, CODERS, j'en passe et des meilleurs. Quand on vote, sur 45 votants, il y en a 5 qui sont quasiment systématiquement contre, mais qui n'ont absolument pas pouvoir et qui ne l'auront jamais. Donc moi, la démocratie participative avec une répartition des voix pareille, j'aimerais vous dire que merci beaucoup. Hein.
Besoin d'instances de gouvernance plus adaptées aux enjeux et aux contextes.
C'est pas pour ça que les La parole n'est pas écoutée et il ne peut pas y avoir...
Une décision à vote.
C'est la démocratie.
Oui, c'est celle qui fait foire, hein, c'est pas la discussion.
Hein. Oui, sur ce...
Y compris dans les enquêtes publiques, parce que combien il y a d'enquêtes publiques qui sortent avec des avis des commissaires enquêteurs défavorables et que le préfet, lui, même si Coderre s'a mis un avis défavorable, le préfet s'assoit dessus et il fait ce qu'il veut. Donc on perd un temps fou sur des histoires de fous pour aboutir à ce que l'on veut. Le commissaire enquêteur, c'est comme je ne suis pas intervenu, mais oui, je m'agace une fois encore, des études. Il faut savoir que les études, le compte-rendu des études est en fonction de celui qui paye. Il n'y a pas de problème. Et le commissaire enquêteur, quand il est mis en place, monsieur, ne me racontez pas d'histoire. J'ai un exemple, moi, 50 études sur le secteur de Ron, entre la Vienne et les Deux-Sèvres. Études en général, études sur l'eau, études sur la qualité. Parce que, j'irais même bien dire vu qu'au BRGM. Vous voyez, hein. Comment? Attendez, l'origine de
croire qu'un bureau d'études va aller contre celui qui missionne et qui paye.
Donc c'est pas une étude. Donc c'est pas une étude. Donc c'est pas une étude scientifique. Déjà, il y a quand même un gros problème là. Enfin bon. Mais c'est, je confirme ce que vous dites. C'était pas ça le débat.
Le fonctionnaire d'État est un menteur. Non. Je suis désolé. Je suis chargé de recherche CNRS à l'Université de Poitiers. Je ne peux pas vous permettre de dire que je monte tous les jours.
Non mais c'est pas ça. C'est pas ça le problème.
Je ne suis pas au BRGM. Vous ne pouvez pas dire qu'il frelate la donnée ou qu'il mente. Le rapport, il est remonté, il est public. C'est-à-dire qu'il est accessible. Vous allez au niveau des agences de l'eau. Il suffit de chercher sur Internet, vous aurez accès à la donnée. Maintenant, la donnée, elle est là. Elle n'est pas plus interprétée. C'est-à-dire que l'interprétation, elle vous est laissée de savoir si vous considérez que c'est dangereux ou pas. Et pour en revenir aux études, comme vous dites que vous ne voulez pas, les pêches électriques que vous effectuez régulièrement sont des études. Comment pouvez-vous juger de l'évolution des avancées des flux de cyprinidés au niveau des bassins versants si vous ne faites pas les pêches électriques? Donc vous êtes bien conscient qu'on a besoin d'études et de résultats pour pouvoir justement
remonter. Il n'y a pas de prise de position, que ce soit des politiques ou des citoyens.
Mais elle vous a donné la réponse. Elle vous a dit que le citoyen était responsable. Quelles sont les actions à titre individuel? Pas de président de fédération de pêche. Vous prenez. Ce soir, vous n'allez pas vous laver, demain matin, quoi, vous m'excusez. Vous
c'est votre citoyen moyen qui peut décider de voter pour quelqu'un.
Je vais vous donner un exemple. Le bisphénolat dans les biberons. Vous savez pourquoi il n'y en a plus maintenant? Parce qu'effectivement, il y a eu des études qui ont montré que c'était dangereux pour les nourrissons et que les femmes enceintes qui allaitaient leurs enfants avec ça avaient des problèmes sur les enfants. Mais c'est les citoyens. C'est parce qu'il y a eu une demande d'achat massif de biberons sans bisphénolat dans certains pays que d'un seul coup, en France, on trouve des biberons sans bisphénolat. Le citoyen, je pense, et je suis d'accord avec vous, a un très grand pouvoir. C'est la demande qui crée.
Oui.
Donc c'est le citoyen à titre personnel à se mobiliser, à agir. Vous dites j'ai voté contre. Vous avez voté, c'est bien. Mais est-ce que tous vos usagers de la pêche, tous les pêcheurs, je suis pêcheur, mais dans le 87, vous voyez, moi aussi je suis de votre côté. Je ne sais pas si tous les pêcheurs, ils ont exactement la même opinion que vous, ou s'ils sont capables de suivre les mêmes règles que vous en disant on va préserver la ressource, on va acheter les qualités.
Monsieur a dit qu'au Coderce, la majorité c'est l'administration. Oui, il n'a pas contesté les Les associations minoritaires.
Je pense qu'il faut sensibiliser les gens, mais ça viendra du bas. C'est les gens qui, par leur action citoyenne individuelle, à
mais il y en a quelques-unes, mais c'est pas tout.
Si je peux me permettre, je vais prendre un exemple tout bête, tout concret. L'interdiction de l'usage, enfin, ou la diminution de l'usage de l'eau, ça a été fin septembre. Je pense qu'il y a un vrai problème, c'est qu'on ne tient jamais compte de l'expertise citoyenne. Alors, je ne parle pas de l'expertise dont parlait mon voisin derrière. C'est-à-dire comment les gens y vivent. Qu'est-ce que au quotidien, comment ils prennent leurs décisions, sur quoi ils s'appuient. C'est vrai que quand vous avez un arrêté du type de celui qui a été publié, c'est un tout petit article dans La Nouvelle République et Centre Presse. Honnêtement, il faut être vigilant. Hein. Moi, je n'aurais pas été un petit peu sensibilisé par un certain nombre d'années de travail, je pense que j'y aurais pas fait attention. Donc déjà, premier problème, on met ça à un moment où les gens ont de moins en moins conscience de la chaleur, de l'impact de la chaleur et du temps. Ah ben si vous auriez fait ça en août, je peux vous dire que déjà, il y aurait eu plus de prise de conscience. Ça, c'est évident. Deuxième truc, pourquoi utiliser un système d'information dont tout le monde ne bénéficie pas? Les journaux locaux ne sont pas lus par beaucoup de gens, hein, c'est là aussi c'est une évidence, puis c'est pas difficile de se renseigner. Il suffit de demander aux deux directions, enfin même à la seule direction du journal local pour s'en rendre compte. Alors que Poitiers a des systèmes de communication. Bon d'accord, il date un peu des années 50, mais c'est comme ça. Hein, c'est plus non mais à part une apologie du maire et de l'adjoint ou des deux trois adjoints, moi j'ai jamais trop vu les informations. Alors il pourrait très bien on pourrait très bien intégrer. Pendant 12 ans, je ne vous l'ai peut-être pas dit, je peux peut-être le dire, j'ai été président du conseil de développement de Grand Poitiers. Tout ce que je dis là, je l'ai déjà dit plusieurs fois à un nommé Jacques Centreau, et après, d'ailleurs certains peuvent témoigner ici, à un nommé Alain Claës. Donc ce n'est pas une nouveauté, c'est des choses qu'on sait. Si on veut que les citoyens, moi je suis d'accord avec mon voisin derrière, les expertises scientifiques, elles sont absolument indispensables.
elles sont faites, plus ou moins bien faites, plus ou moins avec l'intention de continuer à avoir d'autres études derrière. Ça peut arriver, mais ce n'est pas ça qui est scandaleux. Ce qui est scandaleux, c'est qu'il n'y a aucune expertise d'usage à côté, ou très très peu, où on donne très peu de moyens. Comment voulez-vous que les citoyens se réveillent et commencent à prendre des décisions qui aillent dans le sens de ce que vous dites? Moi, je partage bien tout ce qui a été dit. Mais si on ne leur donne pas la parole, si on ne leur explique pas, où est-ce qu'on apprend tout ce que vous venez de dire? Où est-ce que ça s'apprend? Le GUB, je le connais depuis longtemps. Mais bon, il n'y a qu'une seule structure là-dedans. Il y a très peu de citoyens qui passent par ces formations.
Sur l'arrêté de restriction. Ah, mais sinon, je vais perdre le fil, en fait. Non, l'arrêté de restriction.
Est-ce que vous avez vu les effets de ces arrêtés? C'est ça ma question, c'est tout.
D'accord. Donc,
aussi
deux
bien
questions.
2018 que 2020, oui. Que les précédents. Est-ce
oui.
Que vous les voyez?
Oui. Si, on voit effectivement, il y a une sur la puisqu'on suit tous les jours la production d'eau potable, hein, le volume produit, donc on voit effectivement les effets. Donc après, il y a certainement des effets qui se cumulent. Hein, des fois, c'est difficile, mais on voit effectivement l'effet des restrictions. Après, effectivement, là sur après la façon de communiquer, c'est encore quelque chose. On s'est posé la question effectivement. Comment aussi répéter l'information pour qu'elle soit bien connue? Ça, on est d'accord qu'il faut que cette information soit le plus largement possible partagée. Ça, c'est évident. Après, sur pourquoi ne pas l'avoir fait en août? Parce que nous n'avions pas franchi, on s'est mis un seuil. Donc, quand on se met un seuil, il faut respecter. Sinon, ça ne sert à rien d'avoir des seuils. Le seuil a déjà été relevé par rapport à la campagne précédente. Donc et là on s'est on s'est calé effectivement sur la prise d'un arrêté préfectoral qui a, alors que le seuil n'avait pas été franchi pour le coup, mais qui par mesure de prévention en concertation avec la profession agricole d'ailleurs a décidé de faire un arrêté de coupure. Oui, en fait, la coupure est à 2 mètres, donc avant c'était 1,9. Et donc là, c'est des mesures de prévention, en fait. Donc si tout s'était passé normalement, là, en fait, ça a été pris parce que la sécheresse, en fait, elle perdure, quoi. Elle est,
Juste petite précision par rapport à ce que vous venez de dire, que vous aviez remarqué suite à l'avis de restriction, vous remarquez donc une baisse dans la consommation. Est-ce qu'il est possible d'avoir une idée? Est-ce que c'est chiffré? Est-ce qu'on fait une économie de 5% quand c'est déclaré ou 10%? Est-ce que vous pouvez dire à peu près?
Nous, on a vu à peu près.
Vous constatez, c'est combien?
On a vu entre. Ça représentait quand même 1000 mètres cubes par jour.
D'accord. On en distribue habituellement?
Sur. Sur 25 000, 1000 sur 25 000, c'est pas mal?
C'est pas mal.
En tant que citoyen lambda, j'aimerais savoir, là, tout le monde est concerné par l'eau, combien de personnes ont fait un effort chez eux pour récupérer l'eau et l'utiliser intelligemment? Ma expérience personnelle. Récupérer l'eau et l'envoyer dans les toilettes, 50% de diminution. Et de l'eau, pour les toilettes, ce n'est pas obligatoirement de l'eau potable. Et il n'y a pas besoin de recycler. 50%.
Et 100% avec des toilettes sèches.
Oui, mais là, c'est de l'eau de pluie. Non, mais c'est pareil, vous avez la même économie.
Pour reprendre le principe du grand cycle de l'eau, c'est de l'eau qu'on intercepte.
Oui, mais malgré tout, je le renvoie aussitôt chez moi. Au lieu qu'il y aille directement, il passe par le circuit toilette, c'est tout. Et pareil pour l'énergie.
Faut aussi dire, effectivement, que tous les traitements et tous les programmes qu'on met en œuvre, c'est vraiment pour que l'eau soit potable. Et l'eau de consommation représente moins d'1% de la consommation d'un ménage. Donc on fait énormément d'efforts et d'investissements pour un pourcentage très minime, et souvent d'ailleurs ce que je disais, hein, qui n'est même pas consommé.
Une question,
en plus, ce qui est d'autant plus rageant.
Dans les équipements de la ville, est-ce que l'eau de pluie est récupérée
oui.
pour arroser les jardins
oui.
ou par exemple, les magnifiques panneaux photovoltaïques qu'ils ont mis sur le grand parking
du parc des Expos, Expos sur les ombrières solaires. La roseraie.
Ah oui.
Il y a déjà toute l'eau de pluie du secteur qui descend, qui alimente le bassin de la roseraie. Voilà. Alors sur les ombrières, non, il n'y a pas eu de récupération d'eau de pluie. Elle part sur l'eau de ruissellement. Mais bon, là, on a un perméabilise pas, puisqu'on met des ombrières sur un parking. Donc de toute façon, ça ne buvait pas avant. L'utilisation de l'eau dans les espaces verts. Donc la première des choses, ça a été pour les espaces verts de la ville de Poitiers, mais les autres communes de la communauté urbaine ont suivi à peu près les mêmes principes, puisque tout le monde était soumis un petit peu aux mêmes contraintes. Donc il y a l'adaptation de la palette végétale, hein, c'est-à-dire utiliser des végétaux qui sont plutôt économes en eau et qui ne sont pas ceux qu'on avait dans les jardinières avant, engraissés à mort, arrosés à mort pour que ça brille tout l'été. C'est pas le même fleurissement. Alors c'est pas sans impact parce que c'est anecdotique, mais lorsque vous voulez être une destination touristique et que vous concourez aux villes et villages fleuris, il y a un certain nombre de membres du jury qui sont encore à la fleur au kilo qui pète, qui est engraissée à mort, et quand ils viennent au 15 août, ils veulent que ce soit bien vert et bien dressé. Donc quand vous avez fait le choix d'avoir des végétaux qui sont adaptés plutôt à la sécheresse, c'est-à-dire que lorsqu'un épisode pluvieux arrive, ils repartent et on aura peut-être un fleurissement de fin d'été, mais on aura un fleurissement. Et puis il y a les terre-pleins sur les boulevards de Poitiers qui sont là pour le prouver. Et ça ne plaît pas forcément à un jury ville et village fleuri parce que ce n'est pas encore ancré. Alors la grille de notation a évolué, les membres du jury moins. Et donc c'est un peu schizophrénique pour eux, je pense, comme situation. Mais c'est un choix. Et quand on sait que le jury arrive, alors est-ce qu'on arrose à gogo alors que ce n'est pas le principe, ou est-ce qu'on se dit ça reste comme ça, puis on verra, on l'expliquera. Donc c'est le choix qui a été fait par la ville de Poitiers, ils n'arrosent pas, ils expliquent. Mais ce n'est pas forcément compris.
Un seul exemple, en 2002, Poitiers a arrêté les pesticides. En 2002, on avait simplement 15 ans d'avance. Des dizaines de lettres qui sont arrivées sur le bureau du maire. C'est scandaleux, il y a de la mauvaise herbe sur la tombe à papy. On a fait du bon, c'est la loi maintenant. Après, c'est passé 2 ans après à la voirie.
Un plan d'adaptation au changement climatique, donc avec toute une analyse, donc un diagnostic de vulnérabilité qui avait été fait spécialement localement, sur les 13 communes anciennement, mais il y a déjà eu une connaissance de ça, et un plan d'adaptation a été fait, donc en 2014, si je me rappelle bien, Et donc, des actions comme du coup Céline Lelard peut porter avec son programme ressources, etc., sont toujours en train d'être justement implémentées. Et on essaye justement d'aller toujours plus loin dans ce cadre-là. On est très content du rapport d'Aclimatera qui a fourni un rapport peut-être un peu plus poussé. Mais on était déjà Grand Poitiers dans une optique d'adaptation au changement climatique et de préservation de la ressource en eau, enfin, spécialement sur ce thème-là pour cette conférence.
Mais au même titre que les arrêtés municipaux sur les restrictions d'eau, on le communique peu. On fait beaucoup et on communique peu à Poitiers. D'autres communiquent beaucoup et font peu. C'est, voilà, chacun choisit.
C'est une magnifique phrase de conclusion que nous avons là. Donc, bah, je vous remercie à tous. Bon, on a pris un peu nos aises, c'est vrai, mais en même temps, bon, c'est l'avantage, on se fait plaisir. Mais le débat continue à 18h30 à l'espace Toumaï, où vous pourrez assister à une belle conférence, entre autres par Serge Planton, donc, qui est juste à l'arrière, et Daniel Compagnon. Et vous pourrez aussi voir quelques éléments d'exposition juste à côté. Voilà, merci à tous et profitez bien aussi de la visite du train demain. Venez voir le train.